Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'espace Mendès France pour ces rencontres autour de l'astronomie. Je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de cet établissement et je suis heureux de vous accueillir. Alors, je voulais vous passer immédiatement les excuses de Nathalie Lanzy, qui est la vice-présidente de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, en charge de la culture et des territoires, qui est dans notre établissement, mais elle est en prise avec les médias, la presse. Et au niveau timing, notre horaire posait un petit problème. Donc elle vous salue, elle est dans l'établissement et elle est porteuse d'un message. Alors je vais vous le livrer avant de vous parler du reste. La région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qui bientôt aura un autre nom, j'imagine, s'est emparée d'un site que vous connaissez certainement, qui est l'observatoire de Floirac, dont il est plus que largement question d'assurer non seulement la réhabilitation, mais la remise en service, parce que pour celles et ceux d'entre vous qui ont connu l'observatoire de Floirac à ses belles heures, c'était une pièce maîtresse pour les réseaux d'astronomie amateurs. Donc voilà, et je pense qu'il y a il va se passer des choses. Ça veut aussi dire que dans la suite de ce qui a pu se passer dans un certain nombre de régions, l'astronomie n'est pas indifférente à des décisions que des élus peuvent avoir. Parce que l'astronomie, c'est un thème, mais c'est pas à vous que je vais le dire, c'est un thème qui est à la croisée de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, c'est un thème dont il faut s'emparer. Alors, c'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, vous connaissez certainement tous Éric Chapelle, depuis très longtemps, on parle avec Éric du fait que les réseaux d'astronomes amateurs puissent, à un moment ou à un autre, avoir un instant de rencontre et de rendez-vous, parce que pour vous côtoyer beaucoup, toutes et tous, régulièrement, à l'occasion de la fête de la science, de la nuit des étoiles, mais aussi de certaines autres manifestations, je constate que c'est comme d'habitude, quoi, hein, dans les réseaux amateurs, et en particulier d'amateurs éclairés tels que vous, chacun a beaucoup de travail, chacun travaille dans son territoire de référence, mais on ne se donne pas toujours le temps de se rencontrer, puis de croiser des savoirs, des pratiques, des interrogations, des astuces, éventuellement de mutualiser du matériel et autres. Donc l'idée de cette rencontre n'était pas forcément de la faire à l'espace Mendès France. L'idée de cette rencontre, c'est qu'elle puisse devenir, ce que j'espère, un temps régulier, récurrent, année après année, ou peut-être une biennale, je ne sais pas, qui vous permette de continuer à croiser vos préoccupations. Alors, je constate que même s'il n'y a pas la parité, comme dans tous les domaines scientifiques où nous sommes amenés à travailler, le nombre d'hommes est plus important que le nombre de femmes. Donc, il va falloir transmettre, il y a des gènes, c'est bien, il va falloir transmettre le flambeau aux petites qui arrivent. Donc nous, on a une opération spécifique là-dessus et on a la chance, je ne sais pas si vous la connaissez, d'avoir l'ancienne présidente d'un réseau européen qui s'appelle Promoscience. Elle s'appelle Patricia Arnaud, elle est neurologue et elle fait la promotion des sciences auprès des jeunes filles partout en Europe. Et ce travail commence à porter ses fruits et il est essentiel et primordial. Donc la parité, c'est pas une obligation, mais en même temps, je pense qu'il est important qu'on soit tous et toutes représentés et qu'on puisse tous prendre la parole, a fortiori dans des domaines scientifiques. Et puis le deuxième aspect par rapport au travail de l'espace Mendès France, c'est qu'on puisse réactualiser en permanence les données scientifiques, parce que vous êtes dans des secteurs où toutes les semaines, voire tous les jours, il arrive de nouvelles informations et que ces informations, il faut pouvoir s'en emparer dans ces pratiques au quotidien. Donc pouvoir interroger, dialoguer avec des intervenants comme ceux d'aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Une donnée scientifique se doit d'être sourcée. Deuxième aspect, pour vous, et on le voit bien, les données technologiques se doivent d'être ressourcées en permanence parce qu'il se passe beaucoup de choses autour du numérique, il va s'en passer de plus en plus. Et ces rencontres sont un temps pour cela. Alors, je voulais vous dire juste un mot, avant de passer la parole à Eric, de l'établissement dans lequel vous êtes. L'Espace Mendès France est une association, loi 1901, qui est née en 1978, du rêve de quelques scientifiques, en l'occurrence des scientifiques des sciences dites dures, physique, maths, et des scientifiques de l'école d'ingénieurs de Poitiers de l'époque qui s'appelle l'ANSMA, Mais très rapidement, ces scientifiques ont été rejoints par des animateurs de l'éducation populaire qui ont fait un pont et un lien entre science et grand public. Donc 78, ce bâtiment a été construit entre 1983 et 1988. Et donc il existe maintenant depuis pas loin d'une trentaine d'années. Et 2015 et a fortiori 2016 seront pour nous l'année de tous les records au niveau du public, puisque là on est en train de préparer notre assemblée générale future. D'ailleurs dans la salle, il y en a certains qui y assistent régulièrement. Donc au titre de 2015, les chiffres pour nous, c'est 137 000 personnes, un peu plus de 60 000 dans les murs, un peu plus de 70 000 sur la région Poitou-Charentes. Et nous avons eu la particularité en 2015 d'initier la production d'une exposition pluridisciplinaire sur la question du climat. Elle a été vendue à plus de 200 exemplaires. Elle est présente dans 37 pays différents. Et là, je viens d'apprendre à la seconde qu'il y a une représentante de la COP 22 qui est là, dans nos murs, dans une salle, que l'Espace Mendès France sera la structure qui présentera une nouvelle exposition sur le climat à Marrakech, puisque la COP 22, qui va suivre la COP 21, aura lieu à Marrakech du 15 au 30 novembre prochain. Donc on diffuse ici, bien sûr, en région. On était présent dans plus de 250 communes en 2015. Et on diffuse en France, grâce au réseau des centres départementaux de documentation pédagogique, on appelle les ateliers canopés, hein, puisque l'exposition climat et une autre exposition qui s'appelle Comment tu comptes est diffusée un peu partout. Et puis depuis récemment, donc nous faisons de l'international, et donc cette présence dans des pays étrangers va se traduire par des implantations permanentes de la méthodologie de l'Espace Mendès France, donc le Sénégal, le Liban, et nous sommes implantés depuis le 1er janvier à Santiago du Chili avec une académie des médiateurs scientifiques. Donc ce qui s'est passé dans cette maison depuis 20 ans a fait école. Ça nous permet de dire que la science, elle est la science des villes, parce que les universités sont dans les villes, mais c'est aussi pour nous la science des champs, puisqu'on essaie le plus possible de diffuser en milieu rural, et avec l'aide de celles et ceux qui sont prêts à nous aider à aller à la rencontre des publics. Alors à ce titre, l'astronomie est un sujet de prédilection, et de mon point de vue, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors si l'annonce de la région de faire ou de refaire de Floirac un point important s'avère opérationnel, ce qui me semble être largement le cas. Je pense que l'événement que nous sommes en train de créer ensemble ce matin et aujourd'hui à travers votre présence peut-être préfigurer quelque chose qui relancerait, ce qui de mon point de vue manque, hein, au niveau national ou européen, c'est la rencontre des astronomes amateurs, et c'est important. Donc on fera partie avec votre aide de ce chemin. Et donc moi je finirai en disant que cette science astronomique pour nous à l'Espace Mendès France, elle n'est pas forcément évidente d'un point de vue méthodologique, parce que nous n'engageons d'action que en partenariat avec des institutions scientifiques, des labos de recherche de proximité. Hein, c'est notre slogan, il n'y a pas de culture scientifique sans scientifique. Il se trouve, la particularité, c'est que l'Université de Poitiers, en astrophysique, il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout. Premier point. Deuxième point, on a une particularité, on a un planétarium qui est assez exceptionnel, et Eric l'a largement réhabilité depuis quelques années, et par sa configuration et aussi par l'usage que l'on en fait. Donc la thématique de l'astronomie est pour nous une façon de créer du lien entre différentes disciplines. Et puis aussi, je rappelle qu'on a publié, voici une quinzaine d'années, un opuscule à l'usage des enseignants de primaire et de collège qui s'appelait l'astronomie dans la littérature. Et on avait fait une recherche sur une cinquantaine d'ouvrages différents de la fiction et de la littérature sur la question d'astronomie. Mais Eric, il va falloir que tu le retrouves, cet ouvrage, parce que j'en ai plus, je sais pas où il est. Ça peut peut-être vous aider, puisque... Oui, par exemple. Parce qu'on a une demande du monde enseignant de pouvoir créer ou recréer ou revivifier en permanence la transversalité, et de ne pas oublier que Les sciences sont bien sûr les sciences dures, c'est l'observation, c'est la théorie, c'est le concept, mais le monde scientifique, il se doit bien sûr hein, d'être présent à travers tout ce qui relève de la fiction, de la poésie, de l'art de la rue, etc. etc. Donc on va essayer, nous aussi, dans cette optique, d'être présent. Donc encore une fois, donc, merci de votre présence. Moi, je voulais saluer parce qu'il m'a aidé à configurer ma pensée sur l'astronomie. Gérard Martineau, bonjour. Heureux. Et puis Michel Royer de Châtellerault, parce que depuis 20 ans qu'on se côtoie, on a été en prise à travers le thème de l'astronomie. Je vais vous raconter une petite anecdote dans deux secondes. Et à chaque fois, ça m'a permis de relégitimer le fait qu'on est ici un planétarium. Parce qu'il y a quelques années, il y a un certain nombre d'élus réfléchissant au fait que les finances publiques étaient à plat, qui se sont demandé si un planétarium, c'était bien pertinent à Poitiers, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'université de Poitiers n'a pas d'astrophysique dans sa recherche et à peine dans son enseignement, et que finalement, ce dôme qui n'était pas forcément à sa place au niveau architectural, hein, je rappelle qu'un architecte... étranger a dit l'autre jour que le bâtiment de l'espace Mendès France relevait de l'architecture de l'art brutal. Voilà, donc je le laisse responsable de sa terminologie. Les discussions que j'ai eues depuis une vingtaine d'années avec Gérard et puis le réseau Poitevin et puis aussi avec Michel et puis le réseau de Châtellerault m'a permis à chaque fois de pouvoir dire, de pouvoir défendre le fait qu'un planétarium était un outil absolument indispensable, et pour faire un parallèle, c'était dans l'ADN d'un acteur de la culture scientifique à un moment ou un autre. Voilà. Donc sachez que si on peut à travers votre présence revaloriser à une période où les élus qui viennent d'arriver n'ont de cesse que de couper les crédits et arrêter un certain nombre d'actions, donc revaloriser la présence de l'astronomie dans l'espace public, dans la culture et dans la cité, sachez qu'une maison comme celle-là sera l'avocate de vos préoccupations qui sont tout autant des amateurs éclairés avec leur tropisme, leur lubie, leur focalisation que je trouve absolument magnifique, mais également un rôle citoyen et éducatif qui est central. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on est heureux de vous accueillir. Donc je vous demande d'applaudir Eric, parce que c'est lui qui a souffert. Parce que c'est comme dans le commerce, hein, pendant les travaux, la vente continue. Donc pendant qu'il préparait ça, continuait son boulot au quotidien. Donc Eric, je te donne la parole en te remerciant ainsi que Céline et toute l'équipe de Mendès France qui vous accueille en ce samedi. Il va vous refaire un petit filage du programme. Et puis sachez que la maison vous est ouverte aujourd'hui comme pour le reste de l'année. Allez Eric, viens. Qu'on ne se mette pas en retard.
Voilà, merci.
Merci. Voilà. Donc, souffert, non, il ne faut pas le mettre au passé parce que ce matin, il y a eu un petit coup de chaud pour moi. Donc, je suis confus par rapport à des petits retards là, d'organisation. Tout va se régler dans la journée, surtout au niveau donc, des tarifs, des ventes, des repas. On va éviter d'avoir du retard parce que c'est mon seul tracas de la journée. Parce que, en parallèle à nous, l'organisation de la cafétéria, des repas. Donc on va essayer d'être pointilleux sur ces horaires-là. Après, dans la journée, on aura toute la souplesse au niveau des échanges. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va plutôt passer directement l'après-midi. Je reviendrai pour l'intervention de 11h. Tout d'abord, je voudrais excuser Agnès Acker qui voulait être présente ce matin. Mais elle est à Poitiers. Elle est à l'hôtel, mais elle est malade, elle a une grippe. Elle fait tout actuellement pour être présente ce soir et elle sera présente ce soir. Donc je vous rassure, et même un peu avant, parce qu'il y a un atelier de cet après-midi qui l'intéresse fortement. Donc elle sera cet après-midi ici parmi nous, mais elle s'excuse de ne pas être là dès 10h. Ensuite, cet après-midi, on commencera à 14h avec des ateliers autour de l'impact de Rochechouart, avec un projet de surveillance de météores qui s'appelle Fripon. Il y aura donc aussi détection des nébuleuses planétaires et des observations solaires. Alors les observations solaires avec filtre se passeront à l'extérieur dès 14h. Et ici, il y aura une présentation de comment est-ce qu'on peut observer le soleil en ondes radio. par Jean-Charles Le Tanec, voilà. Et il y aura aussi une présentation d'une maquette du système solaire découvert d'un planétaire. Alors, on verra au niveau, là je mets une petite réserve, si on fait ça donc dans ce créneau-là ou on basculera peut-être dans le créneau suivant à 17h30 en fonction du temps. Ensuite, dans le deuxième créneau, donc à partir de 17h30, il y aura un de mes collègues, Thierry Pasquier, qui est chargé de la communication à l'Espace Marine France, mais aussi très très au point sur tous les outils numériques, qui viendrait présenter en fait un moyen d'échange entre nous tous au niveau des manifestations, et un moyen très simple. Donc j'en dis pas plus, je lui réserve le privilège de le présenter, mais c'est toujours dans le même souci, vous avez un événement, comment on le fait passer? Grâce à ça, je pense que ce sera bien, bien plus pratique. Et après coup, ça sera aussi l'occasion pour certains de présenter donc, des manifestations à venir donc, que vous allez organiser dans les 1 an à venir. Hein. Cet après-midi aussi à 16h30, donc une séance de plein temps m'est proposée. Cette séance-là, donc, à discuter dans la matinée ou pendant le repas. Je ne vais pas vous présenter la Grande Ourse ou l'étoile polaire, je pense qu'on la connaît tous. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé aller un peu au-delà de ce simple présentation du ciel en allant vers le système de coordonnées ou autre, mais à échanger dans la journée avant la séance. Et j'affinerai donc le sujet. Après cette séance-là, on va dire réservée au club amateur, il y aura une séance grand public. Et donc là, on viendra sur une séance classique. Donc vous voyez, vous pourrez avoir le choix si vous voulez découvrir un ciel étoilé ordinaire, vous irez à 17h30. Si vous voulez une sorte de perfectionnement, ce sera plutôt à 16h30. Voilà. Et puis, tout au long de la journée, il y a une librairie qui sera présente ici, la Bruyère Vagabonde, avec des livres d'Olivier Sossereau et d'Ina Sacker qui seront le plaisir, si vous le souhaitez, d'être dédicacés. Donc, il n'y a pas de moment dédié à cela. Donc, Olivier Sossereau qui est présent, ben, vous le croisez, vous demandez dédicace et il se fera plaisir de vous la faire. Voilà. Alors, ça me fait la transition vers l'intervention de 11h, 11h05 en fait. donc, merci Olivier d'être présent parmi nous aujourd'hui, mais aussi déjà hier, parce que ce n'est pas dans le programme, c'est invisible, parce que hier tu étais dans un lycée. Autour d'un projet, entre un projet de lycéens et un projet de comment on se repère en mer. Projet d'ailleurs financé par un FEDER européen autour d'une opération qui s'appelle Objet de Science. Et les lycéens ont été mis attentifs et éblouis pendant 2 heures d'intervention. Et je te remercie vraiment pour cette action-là. Et du coup, eh bien, tu es présent ce matin encore. Sur un autre sujet, là, c'est ta deuxième passion. Tu vas nous faire découvrir en fait, une passion qui est la photographie des phénomènes astronomiques. Et on va découvrir ces photos-là. Tu présenteras aussi une association que tu as en Vendée, autour d'un observatoire, et une petite anecdote au niveau d'un observatoire en Afrique. J'en dis pas plus, je vais laisser le suspense. Voilà, donc je te laisse la parole jusqu'à 12h30. Pendant la formation, bien sûr, s'il y a des questions, des remarques, vous faites remarquer. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que la conférence est enregistrée, donc si vous prenez la parole, merci de vous signaler de façon à ce que je vous donne le micro, de façon à ce qu'on puisse écouter la question, sinon au niveau de l'enregistrement, on n'a que la réponse et on n'entend pas la question. Voilà. Merci.
Bonjour. Je suis extrêmement heureux de faire cette présentation devant vous. Intimidé aussi, puisque je suis devant la communauté astronomique aussi, et volontairement j'ai retiré de mon diaporama toutes les images de ciel profond, d'images de surface planétaire, parce que ce n'est pas ma spécialité. Je ne veux pas vous montrer des images dont certains collègues sont bien meilleurs pour moi pour réaliser aujourd'hui, notamment dans le traitement et dans le développement numérique des images, qui n'est pas vraiment ma spécialité. Je vais plutôt axer ma projection sur ce qui a fait mon originalité à une époque où j'étais peut-être un petit peu novateur, il y a une trentaine d'années, qui est la photographie du paysage astronomique. Aujourd'hui, c'est très courant. Beaucoup d'astronomes amateurs réalisateurs ou de photographes réalisent des images qui sont parfois absolument sublimes, de paysages terrestres dans le cadre de phénomènes astronomiques. Et le développement des outils numériques permettent aujourd'hui des images assez, assez spectaculaires. Moi, c'est une activité que je réalise depuis une trentaine d'années, 30 ans très exactement, puisque ma première photographie que je vais vous montrer, qui a véritablement illustré, on va dire d'une manière professionnelle, ou tout au moins une photo qui a ouvert ma démarche professionnelle, a été une photographie de la comète de Halley que j'ai réalisée il y a 30 ans, exactement le 16 mars 1986. Ce travail astrophotographique est un travail qui est pour moi un style de vie. C'est un art de vivre, c'est un moment comme certaines personnes ont besoin parfois de se recueillir dans un monastère, d'aller méditer ou de faire du yoga. Moi, j'ai un besoin vital de pouvoir, à un moment donné, partir, soit en Bretagne, soit dans les collines vendéennes, soit à l'autre bout du monde, en Sibérie, en Afrique, etc., pour me retrouver solitaire, bien souvent, dans des ambiances astronomiques et de photographier ces moments, notamment ces moments très particuliers entre chien et loup, ces moments de crépuscule où le paysage terrestre peut se dévoiler au moment de ce qu'on appelle le crépuscule nautique, qui est ce moment très particulier. Le soleil est à 12 degrés en dessous de l'horizon. C'est le moment où le marin sur l'océan avait la capacité de faire une mesure de hauteur d'astre, puisque la ligne d'horizon était visible et où les étoiles de première grandeur pouvaient être mesurées dans le ciel. Et c'est précisément cette période de la fin de la nuit ou du début de la nuit que je vais bien souvent utiliser pour associer sur la même image un événement astronomique avec un paysage. Cette image illustre ce qui est mon plaisir, ma passion, mon style de vie, une partie de mon activité professionnelle. J'ai trois activités pour me présenter. Je suis astrophotographe, photographe en astronomie. Je suis historien des sciences. Je suis chercheur associé à deux laboratoires à l'Université de Nantes et je travaille sur l'histoire des observatoires de la marine en France au 18e et au 19e siècle et je suis également chargé de mission au musée Jules Verne de Nantes et ça fait depuis 20 ans que je travaille sur l'œuvre de Jules Verne à travers des projets éditoriaux, que ce soit au niveau livre pour les éditions Actes Sud ou également au niveau documentaire pour la télévision. Et en réalité, si je parle de cela, c'est que ça va revenir dans la projection et que ces trois activités, astrophotographie, dans lesquelles je vais réaliser des voyages sur Terre pour réaliser ces images, l'histoire des observatoires de la marine en France au 18e et au 19e siècle, c'est l'astronomie au service des grands voyageurs à une époque où le GPS n'existait pas. Et l'œuvre de Jules Verne, est-il besoin de le préciser, ce sont les voyages extraordinaires, c'est le roman de la science. Et bien entendu, cette lecture de l'œuvre de Jules Verne a participé à ma vocation et s'entremêle avec mes différentes activités liées à l'histoire des sciences et à l'astrophotographie. Alors, voici quelques images. Ce que je vais vous montrer, c'est finalement des photos de souvenirs. Ce sont des images prises dans différents endroits du monde, qui sont des images, je tiens à préciser, totalement 100% bio. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de photo sandwich. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus proche possible d'une sensation, d'un moment réel. On pourrait discuter de la notion de réalité, bien entendu, en astronomie et par l'aspect que peut produire le ciel étoilé par une pose longue. On ne voit pas ça, bien entendu, à l'œil nu. Ici, c'est un autoportrait. Vous me voyez ici dans ce fameux observatoire dont Eric a un petit peu dévoilé, dont je vais vous en parler, qui est un observatoire que j'ai baptisé Nyota Observatory, dont je vous parlerai vers la fin de cette exposé que j'ai eu le plaisir de créer en Afrique, dans les montagnes de Baringo, dans le Rift Valley. Alors, tout cet art de vivre, ce style de vie, ce plaisir du voyage va nécessiter d'avoir un véhicule tout-terrain. Alors, je vous montre ces images pour vous plonger dans mes choix de vie. Et depuis 1992, c'est-à-dire depuis l'âge de 26 ans, j'utilise un observatoire ambulant. Alors, pour les amoureux de belles mécaniques, c'est un Land Cruiser BG-75. Daesh utilise exactement le même type de véhicule. Alors, plutôt en version pick-up avec le canon derrière, mais on a Daesh et moi des contraintes techniques technique de robustesse. Le Land Cruiser BG75 ou sa version plus moderne HD75 est un véhicule extrêmement robuste, bon, qui résiste mal effectivement aux bombes éventuellement américaines ou russes, mais qui est quand même un véhicule extrêmement résistant que j'ai donc depuis 1992. Donc vous voyez qu'il a quand même beaucoup de kilomètres. Il a 620 000 kilomètres au compteur. Le moteur est intact, tout est absolument intact. Et c'est un véhicule que j'ai totalement aménagé comme une cabine de bateau. Donc c'est véritablement mon observatoire ambulant dans lequel je pars régulièrement. Là, c'était par exemple une image que j'ai prise il y a un an, très exactement. Nous sommes partis en famille. Vous voyez ici mon petit bonhomme, Éloane, qui avait 21 mois à l'époque. Nous sommes partis pour la précédente avant-dernière éclipse totale de soleil qui a eu lieu dans l'archipel des Féroé. Donc nous sommes ici quasiment au niveau du cercle polaire. Nous sommes partis pendant 2 mois en vivant à l'intérieur de ce véhicule. Alors voici l'ambiance. On peut avoir un petit peu un noir plus profond éventuellement, un peu plus de sombre, hein, si on va avoir des images astronomiques. Donc voilà ce genre d'ambiance, hein, dans lequel j'adore vivre, j'adore partir comme cela dans mon véhicule que j'ai totalement aménagé. Je vous montre ces images, c'est un petit peu comme on prend plaisir à montrer son observatoire. Vous voyez que tout est lambrissé à l'intérieur, tout est isolé, les rideaux sont isolés. Il y a une surface de lit de 1,45 m de large sur 2 m de longueur. Il y a une table au milieu qui se soulève et vous me voyez ici en train de prendre mon petit déjeuner après une nuit d'observation de travail et je vais enfin me coucher. Oui, ce qu'il faut essayer d'avoir comme même un minimum de confort. Vous savez combien l'astronome est quelqu'un souvent de frigorifié. Hein, les plus belles nuits sont souvent en hiver. Je ne vous parle pas au Féroé des températures que nous avions. Alors voici le télescope. Donc peu d'images finalement que vous allez voir dans cette projection, parce que j'ai enlevé les images du ciel profond ou d'images planétaires. Mais je vous montre quand même mon matériel. Donc c'est un matériel qu'on ne trouve pas sur Amazon.fr, hein, puisque c'est un instrument, vous le devinez, qui a été entièrement fait sur mesure, sur une base existante, puisque la monture, pour ceux qui sont des anciens de l'astronomie, c'est une monture AE, qui est une monture donc anglaise, que j'avais commandée dans les années 1980. C'était à l'époque un petit peu le top de ce type de monture, qui en réalité avait beaucoup de défauts chroniques néanmoins, et qui a été entièrement repensé, reconçu, retravaillé par Serge Desconihout, dont je pense le nom est connu par un certain d'entre vous, qui est installé dans ce fameux village totalement fou dans les Alpes de Haute-Provence, à Puy-Michel. Et Serge a créé une entreprise qui s'appelle Valmeca, et il a totalement refait mon télescope. Donc tout le matériel que vous voyez ici a été réalisé mécaniquement par Serge. Vous avez en parallèle un coronographe Lichten-Kneckers optique, et l'optique a été taillée par Mossé, un nom là aussi qui nous fait rêver, grand opticien et qui a réalisé des optiques assez magnifiques. Alors c'est un Newton Casgrain, donc en Newton je suis à FD5 et puis en Casgrain je suis à 5 mètres 140 de focale, ce qui permet d'avoir des images planétaires intéressantes. Alors c'est un observatoire, c'est un télescope qui a beaucoup voyagé dans mon 4x4 jusqu'en Afrique du Nord, mais c'est un télescope qui depuis 6 ans maintenant est installé à poste fixe dans un observatoire que j'ai créé pas très loin d'ici, à 80 km dans les collines vendéenne, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, et c'est un observatoire désormais que j'utilise, dont d'ailleurs je suis en train de faire de cet observatoire notre lieu de résidence principal. Donc c'est un observatoire à toit ouvrant, j'en reviendrai un petit peu tout à l'heure vers la fin de cet exposé. Alors voici quelques images astrophotographiques. Vous verrez que je me suis beaucoup spécialisé sur les éclipses, hein. Je pense que quelques-uns d'entre vous ont peut-être vécu des éclipses totales et annulaires de soleil. J'ai eu la chance de pouvoir vivre 10 éclipses totales et annulaires de soleil au cours de ma carrière. Je ne m'en lasse pas. C'est véritablement un phénomène absolument exceptionnel. C'est comme une drogue. Hein. Quand on en a vu une, on veut absolument pouvoir en revoir une autre. Alors, je fais un certain nombre d'images. Voilà, de ciel profond, astrophotographie. Je vous montre cette image qui est la comète Elbop. Je pense que certains d'entre vous s'en souviennent. Magnifique comète qui est passée en 1997. À l'époque, j'avais loué pendant 2 mois une toute petite maison dans les Cévennes pour avoir le ciel le plus pur. Vous savez que cette comète avait eu le privilège d'être découverte plus d'un an à l'avance, ce qui avait permis à la communauté astronomique de particulièrement se préparer pour le passage de cette comète qui se préparait pour être vraiment un phénomène tout à fait exceptionnel. Et cette image va introduire ce qui est ma véritable démarche astrophotographique, qui est de associer un phénomène astronomique avec un paysage terrestre. Donc voici la même comète Elbop, sans trucage, 100% bio, il y a le label AB, en train de survoler un site mégalithique sur le mont Lozère. Ce que vous voyez ici, c'est un menhir. Nous ne sommes pas en Bretagne, il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des menhirs. Nous sommes sur le mont Lozère, la Chame des Bondons, avec un site mégalithique d'une centaine de menhirs absolument époustouflant de beauté dans un paysage minéral balayé par des vents extrêmement violents. Avec ce menhir que j'ai découvert au cours de mes promenades, sur lequel j'ai eu un coup de cœur, menhir de 5 mètres de haut qui me fait penser personnellement au monolithe de 2001 Odyssée de l'espace, et puis cette comète qui survole ce menhir. Alors bien évidemment, pour faire cette image, il n'y a pas de hasard. Il a fallu que je repère ce menhir, que je détermine ce qu'on appelle son azimut. Donc, j'ai toujours avec moi un compas de marine qui va me permettre de déterminer l'azimut. Il va falloir que je détermine la position de la comète dans le ciel. Et puis, il a fallu calculer donc, les lueurs du crépuscule pour avoir eh bien, suffisamment de lumière pour éclairer en contre-jour le personnage, le paysage, mais qu'il fasse néanmoins suffisamment nuit pour avoir mon paysage astronomique. Autre image prise à un autre moment, ça c'est un autoportrait, vous voyez cette comète Elbop, c'était à la fin de son passage, nous sommes au mois d'avril 1997, elle repartait dans les profondeurs glaciales du système solaire. Alors l'image qui a introduite ma démarche de paysage astronomique à une époque, je le rappelle, où c'était quelque chose d'assez nouveau. C'est cette image que j'ai prise donc dans la nuit du 15 au 16 mars 1986. 16 mars 1986, certains s'en souviennent peut-être, c'était un dimanche, c'était les élections législatives en France où Chirac est passé. Je dois faire une confidence, je n'ai pas pu voter puisque à l'époque, la procuration était assez compliquée. J'étais à l'observatoire du Pic du Midi, au télescope de 1 mètre que vous voyez ici, et c'est l'époque 1986 où il y avait la fameuse comète de Halley, dont vous vous souvenez que le passage en France était particulièrement difficile à observer. Il fallait mieux être en Australie ou à l'île de la Réunion pour pouvoir la contempler, mais au Pic du Midi, le ciel était tellement pur que chaque matin, en fin de nuit, on avait cette comète absolument sublime qui trônait dans le ciel. Et j'avais depuis un petit moment cette idée d'essayer d'associer l'image astronomique avec le paysage, et par un concours de circonstances, la chance du néophyte, la chance du débutant, j'ai réussi cette image avec une pause de 8 minutes, et par un concours de circonstances extraordinaires, cette image a atterri sur les tables lumineuses de l'agence de presse Gamma, qui était la première agence de presse au monde à cette époque-là, et dès le lendemain, elle était publiée dans une quarantaine de pays sur tous les continents. J'avais 19 ans, c'était quand même une histoire assez dingue, et c'est l'image qui m'a fait rentrer finalement dans le monde de la photographie professionnelle d'une manière assez extraordinaire, et par la grande porte, ce qui, à 19 ans, est quand même assez étonnant. Alors, depuis 30 ans, très exactement, maintenant, je peux dire, depuis 30 ans, depuis quelques semaines, eh bien, je parcours le monde, je parcours beaucoup l'Europe, beaucoup la Bretagne, dont je suis un assez fou amoureux par ses paysages mystérieux, par la magie qui peut se dégager de la Bretagne, pour photographier parfois des événements qui n'ont rien d'extraordinaire. Il s'agit ici d'un simple petit croissant de lune se couchant à Pénarcastel dans les Côtes d'Armor, mais là aussi, il s'agit d'une image qui est très réfléchie. Je suis un petit peu comme un peintre, comme un artiste qui va composer son image à l'avance. J'ai toujours avec moi dans mon 4x4 un petit carnet de crobar, un petit carnet d'artiste où je vais dessiner un paysage, je vais essayer d'imaginer où est-ce qu'il serait intéressant d'avoir une conjonction, un croissant de lune, un passage de comète, etc. Et ensuite, par le calcul, je vais déterminer quand est-ce que je vais avoir mon image astronomique que je souhaite. Alors, à une époque, quand j'ai commencé, on n'avait pas les ordinateurs, on n'avait pas Stellarium, on n'avait pas Starry Night, etc. Donc, j'étais avec une calculatrice HP41CX, pour ceux qui s'en souviennent, je faisais mes calculs moi-même, mes petites programmations avec une transformation des coordonnées, là, pour ceux à qui ça dit quelque chose, de coordonnées équatoriales en coordonnées horizontales, et je composais mon image à l'avance. Donc il y a vraiment une composition où j'ai réfléchi, où je vais mettre avant mes petits îlots, le croissant de lune qui est dans une position que j'ai jugée harmonieuse, mon personnage que j'ai placé ici. Voici donc quelques images, ici un lever de lune sur le Mont Saint-Michel. Nous sommes ici au téléobjectif, on est au 300 mm ouvert à 2,8, on est à quelques kilomètres du Mont Saint-Michel, et vous imaginez bien pour faire cette image, eh bien, quand on est au téléobjectif, ça va
va très très vite, le déplacement apparent de la Lune. Donc ici, il est 5h du matin, on est dans les Airbus, je suis arrivé à la lampe de poche, à un endroit que j'ai marqué à la croix, avec un bâton. Il n'est pas question de courir sur quelques centaines de mètres avec tout le matos, parce qu'on s'est trompé d'éventuellement un degré ou deux. Donc voilà, on a des créneaux de prise de vue extrêmement courts. Regardez ici le croissant de Lune, ici un autre croissant de Lune du même âge. Dernier croissant de lune avec la lumière cendrée. Ici, c'est un lever de lune au-dessus d'un petit village qui s'appelle Gourdon. Ça dit quelque chose peut-être à certains. Nous sommes à côté de l'observatoire que j'ai toujours envie d'appeler le CERGA, mais enfin, c'est plus son nom, l'observatoire du plateau de Caussal. Et voilà, pour vous montrer en fait qu'il y a vraiment une réflexion dans mes compositions et que vous voyez qu'il y a ici le croissant de lune qui n'est pas du tout dans une même orientation, dans un même emplacement dans l'image, parce que j'essaye de créer un lien entre le croissant de lune, ici sa partie bombée, ici il y a une diagonale que l'on peut instinctivement faire avec la partie, on va dire, spirituelle du Mont-Saint-Michel avec son archange, sa flèche. Ici, vous voyez que la partie bombée est vraiment dirigée vers le petit clocheton de l'église. Et puis ici, on peut utiliser les pointes des cornes de la Lune pour l'orienter vers le clocher. Inverser les images avec les croissants de Lune, inverser les croissants de Lune d'une image sur l'autre, et les images ne fonctionnent absolument plus. Donc il y a vraiment une réflexion que j'ose espérer artistique pour réaliser ces images. Alors, il y a aussi une réflexion par rapport à l'histoire de l'art. Je ne suis pas historien de l'art, mais il y a un certain nombre de tableaux, d'œuvres qui ont pu m'inspirer dans ma démarche. Je prends juste un exemple, il y en aurait beaucoup d'autres, mais sans nul doute, ce grand peintre romantique allemand, Caspar David Friedrich, dont vous connaissez certainement un certain nombre de ses tableaux, m'a beaucoup inspiré dans ce travail astrophotographique. Ici, l'homme et la femme contemplant un croissant de lune. On voit très bien la lumière cendrée avec la planète Vénus, et on sait combien Caspar David Friedrich est extrêmement précis, rigoureux dans la position des croissants de lune, des conjonctions qu'il place dans le ciel, au point que, comme pour les tableaux de Van Gogh, on peut recalculer le moment auquel Caspar David Friedrich avait, dans les années 1810-1820, observé le phénomène qui la repart. Ici, un petit croissant de lune dans les ruines d'une église, et donc vous voyez combien ce travail astrophotographique que je réalise, et bien voilà, s'imprègne effectivement d'images que j'ai pu contempler, que j'ai pu admirer, que j'ai envie de renouveler d'une certaine manière dans ma démarche photographique. Ici, une conjonction d'un petit croissant de lune avec une gargouille du château des Ducs de Bretagne à Nantes. Ici, un petit croissant de lune se couchant à la pointe du vent à la chapelle Saint-Thier dans le Finistère. Ici, un petit lever de lune se levant au milieu des ruines de l'abbaye de Beauport dans les côtes d'Armor. Ou ici encore un petit croissant de lune à l'aube vers 5h du matin dans les monts Taurus en Turquie. C'est là seule fois où un animal a accepté de poser sur une de mes poses astrophotographiques. Il était 5h du matin, on était sur le bord d'une piste. Tout d'un coup, j'étais en train de photographier la Lune, j'entends « mais » je me retourne et je vois une chèvre qui, pendant 2 minutes, va venir contempler le lever du monde. Un très, très beau souvenir. Ici, un lever de Lune se levant au-dessus des montagnes dans la vallée de Fonds-de-France, dans les Alpes. J'avais dormi dans le 4x4, il faisait très, très froid. Moins 20 degrés cette nuit-là. Là, il faisait vraiment pas très chaud. Et ici, c'est un petit croissant de lune aussi, se couchant au-dessus du col d'Aspin dans les Pyrénées avec la lumière cendrée. Alors mon travail astrophotographique est un travail qui s'est en très grande partie réalisé en argentique. Alors, je vous rassure, je travaille beaucoup en numérique aussi aujourd'hui, mais je privilégie particulièrement toujours mon travail argentique. Alors ça peut paraître totalement hallucinant de travailler toujours au jour d'aujourd'hui en argentique, et vous allez voir combien je suis même complètement timbré, puisque je travaille même à la chambre photographique. Alors la chambre photographique, c'est-à-dire que je travaille, vous savez, l'appareil photo, le voile, la poire, le soufflet, les plaques photo, et bien voilà le genre de matériel que j'utilise, mais qui va permettre de réaliser des images qui, lorsqu'on les numérise dans de très très bonnes conditions, on arrive à des images qui peuvent faire 300, 400, 500 mégaoctets. On a une définition optique absolument extraordinaire. On peut corriger des effets de ligne de fuite, de perspective, pour faire en sorte que si vous photographiez un monument gigantesque, par exemple, une cathédrale, une ruine d'un temple grec, eh bien, si vous êtes au grand angulaire, vous êtes au ras du sol, vous êtes obligé de basculer votre appareil photo. Évidemment, votre cathédrale va ressembler à une pyramide, ce qui va être très très laid si on ne veut pas avoir cet effet, tout au moins on peut vouloir cet effet, jouer avec, alors que la chambre photographique va permettre de corriger précisément ces effets. Ici c'est un autoportrait pris avec ma chambre photographique, c'est une pose de 25 minutes, je n'ai pas bougé pendant 25 minutes pour réaliser cette image. Alors vous voyez combien on est dans des images qui s'éloignent très très loin de l'astrophotographie pure. Ce sont les images qu'on retrouve ensuite publiées parfois dans les magazines pour traiter d'articles qui n'ont rien à voir avec l'astronomie quelquefois, hein, c'est même bien, bien souvent. Ici, autre image prise avec ma chambre photographique, pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage, vous avez carrément tout le plan film, hein, on reconnaît ici hein, le plan film qui est visible ici. Alors il y a certains lycéens, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de diapo, c'est quoi monsieur une diapo, voilà, ça paraît totalement aberrant, bien entendu. Alors voici cette chambre photographique, c'était l'année dernière, là au Féroé, donc voilà, c'est une chambre photographique Cynar, donc c'est du matériel tout à fait, on va dire, contemporain, et qui permettent de faire des plaques photos de 4-5 inches, c'est-à-dire de 9 cm sur 13. J'ai envie de passer à la taille supérieure, carrément, tant qu'à faire d'être timbré. Voilà. Alors, évidemment, vous ne faites pas du bracketing. Hein. Quand vous appuyez, il faut imaginer que votre image, ça coûte quand même relativement cher pour la faire développer, surtout au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de retour aux sources fondamentales de la photographie. C'est vrai que lorsqu'on travaille en numérique, ce que je vous rappelle, je fais néanmoins, on fait beaucoup d'images, on va choisir la meilleure. Quand on travaille en argentique et surtout avec une chambre photographique, il y a ce plaisir extraordinaire de composer votre image, de réfléchir véritablement à votre image avant d'appuyer sur le déclencheur, et avec ce mystère merveilleux qu'il faut attendre le retour ensuite en France au laboratoire professionnel pour avoir parfois 2 mois, 3 mois après le retour de votre voyage, eh bien, le plaisir de découvrir votre image. Alors voici, voilà, quelques images. Ici, c'est la centrale thermique de Cordemais. J'aime beaucoup sa forme géométrique sur les bords de la Loire, de l'estuaire, et puis ici un petit lever de lune, ici voilà un autoportrait, c'est un hommage à 2001, Odyssée de l'espace. Alors pour vous montrer la qualité des images, ce sont les agrandissements qu'on peut faire sur 10 mètres de côté, on a une définition qui est vraiment très très bonne. Donc voilà, là on fait un zoom dans l'image, un zoom arrière, et voilà l'image réelle, voilà. Vous voyez, donc voilà l'image dans sa globalité. Voici ici une autre image, un petit croissant de lune avec la planète Vénus. C'était un autoportrait ici, là également. C'était dans les montagnes des Pyrénées. Donc voilà ce plaisir de l'image, voilà, de la chambre photographique ici. Alors voilà le genre d'image où la chambre photographique est vraiment très intéressante. Ça, sont les ruines du temple d'Apollon dans les contreforts des monts Taurus en Turquie, et c'est un temple assez gigantesque, et j'ai fait des photos au grand angulaire avec un boîtier classique, on va dire, 24-36, et évidemment le temple est très très laid puisqu'il ressemble à une pyramide du coup, et là on a l'exemple même où la chambre photo va permettre de corriger tous ces effets de ligne de fuite, et tout en ayant une définition absolument tout à fait extraordinaire. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure, ou juste présenter le fait que depuis un certain nombre d'années, je m'intéressais beaucoup aux éclipses. J'ai eu la chance de vivre 10 éclipses totales, annulaires, de soleil. Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Ici, c'est celle du 3 octobre 2005. Certains s'en souviennent peut-être. C'était une éclipse annulaire qui était visible en Espagne. C'était une très belle partielle en France. J'étais donc parti dans la Sierra Nevada de Cuenca. C'était un des derniers voyages que j'ai réalisé avec mon télescope. Ça a été une éclipse d'une très, très grande beauté, et où j'ai associé, là aussi, toujours ma démarche, le paysage avec l'événement astronomique. Et là, j'avais joué sur le fait d'utiliser mon télescope pointé sur le soleil. Au moment de ces prises de vue, je ne mettais pas de fil, et je projetais l'image du soleil sur un grand écran qui était sur un pied indépendant, permettant ainsi de faire ces compositions d'images de paysages astronomiques. On a eu la chance à cette époque-là d'avoir des séries d'éclipses totales ou annulaires de soleil assez remarquables, et de pouvoir moi-même aller toutes les observer au cours de mes différents voyages. Et nous sommes ici pour celle du mois de mars 2006, il y a très exactement 10 ans. Nous sommes ici dans les ruines d'une cité antique du 4e siècle avant traire dans les monts Taurus en Turquie. Vous voyez que je soigne mes décors. Nous sommes dans un décor digne de Tintin au temple du soleil. Et là, on va vivre une éclipse totale de soleil, absolument exceptionnelle, peut-être une des plus belles de ma carrière. Et ici, l'image de l'éclipse photographiée avec ma chambre photographique. Donc, c'est l'image brute. Hein, vous voyez vraiment l'image totalement brute. Alors, ça a l'air de rien, mais pour réaliser cette image, là, je ne le vois pas dans la projection, mais quand vous regardez la chambre photographique, photographique, elle est dans une position hallucinante. C'est-à-dire que les plans ont une chambre photographique, on peut complètement désaxer le plan optique de l'objectif avec le plan de la sensibilité photographique, enfin le plan film. Voilà. Donc, pour réaliser cette image, je suis seulement à une dizaine de mètres des colonnes. Et donc, il a fallu faire un travail qui m'a pris facilement trois bons quarts d'heure, une heure avant l'éclipse pour régler ma chambre photographique, pour faire en sorte d'avoir une mise au point nette, que ce soit sur les colonnes, sur l'éclipse, corriger le mieux possible les effets de ligne de fuite, etc. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui demande beaucoup de préparation pour réaliser ce genre de prise de vue. Un voyage d'éclipse qui a joué un rôle très très important pour moi, ça a été en 2008, c'est pour l'éclipse du 1er août 2008, où j'ai réalisé un voyage que j'ai mis 2 ans à préparer, un voyage que j'ai baptisé « Voyage vers le soleil noir », qui a été à l'origine d'un livre aux éditions Belin, qui sera peut-être en librairie, et également d'un film pour la télévision, d'un film documentaire. Un voyage où j'ai associé tous mes centres d'intérêt, c'est-à-dire l'astrophotographie, l'idée d'aller observer l'éclipse totale du soleil du 1er août 2008, l'histoire des sciences, je suis historien des sciences, et ce voyage, je vais l'organiser comme un voyage initiatique en histoire des sciences dans des lieux importants de l'Europe, tout au long de mon voyage pour montrer combien historiquement les éclipses ont joué un rôle essentiel dans notre compréhension du monde, et un voyage à la Jules Verne, puisque ce voyage, je l'ai organisé tel un roman de Jules Verne, tel un pari. L'idée va être de prendre exclusivement le moyen de transport, le train. Et je vais partir de Nantes, la ville natale de Jules Verne, donc voilà le livre, hein. Voilà, je voyage vers le soleil noir, qui est donc ce carnet de voyage que j'ai réalisé. Je vais partir de Nantes en train et je vais traverser toute la France, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, la Biélorussie, la Russie. On va avec le Transsibérien, le fameux train mythique qui traverse la Sibérie. On va faire encore 2 jours et 2 nuits de voyage. On va faire en tout 7000 kilomètres de train. Tout cela pour aller observer 2 minutes et 18 secondes d'éclipse totale de soleil. Un voyage à la Jules Verne, puisque nous serons une grande partie du voyage, sur toute la deuxième partie du voyage, sur les traces de l'un des héros les plus emblématiques de l'œuvre de Jules Verne, c'est-à-dire Michel Strogoff, et le hasard va faire que cette éclipse totale de soleil sera visible non loin, nous nous trouverons non loin de l'épisode peut-être le plus célèbre de ce roman et de l'œuvre de Jules Verne, qui est ce fameux moment, vous vous en souvenez très certainement, où Michel Strogoff a été capturé par les Tartares et qu'il doit être condamné à devenir aveugle par la lame brûlante du sabre d'un Tartare qui lui dit d'une voix lancinante, dans un passage littéraire absolument sublime de l'œuvre de Jules Verne, où le Tartare lui dit « Michel Strogoff, regarde la beauté du monde, regarde la beauté de ce paysage, regarde la beauté de ces danseuses que l'on fait danser devant toi, regarde !» Michel Strogoff, regarde, tu vas devenir aveugle. Et quel n'est pas le risque, précisément, que nous pouvons vivre au moment d'une éclipse totale de soleil. C'est l'un des plus beaux spectacles de la nature, mais la beauté, effectivement, eh bien, peut nous payer le prix de devenir aveugle si nous ne prenons pas un minimum de précautions. Alors, tout ce voyage initiatique en train, eh bien, un peu comme Phileas Fogg, eh bien, je me suis arrêté tout au long de ce voyage en train. Le train a ce côté complètement magique, c'est qu'on s'arrête dans les gares, nous sommes dans les villes, on peut prendre 1 heure ou 2 pour aller à un rendez-vous dans une bibliothèque avec un conservateur, avec Audouin Dollfus, qui avait eu la gentillesse, eh bien, séduit par mon projet d'accepter de me rencontrer chez lui. Et nous allons avoir une discussion pendant 1 heure absolument extraordinaire avec Audouin Dollfus. Vous le voyez ici avec l'ouvrage des éditions Hetzel de Michel Strogoff qu'il est en train de contempler, que j'ai accompagné durant tout ce voyage. La petite anecdote, le nom d'Audouin Dollfus, je pense, vous parle à tous, un personnage tout à fait extraordinaire. Et au moment où j'ai sonné à la porte d'Audouin Dollfus, totalement en sueur, avec les bagages, on avait 20-25 kilos de bagages photographiques, de trépieds, etc. On avait 1 heure pour se rencontrer avant de reprendre le train pour l'Allemagne ensuite. Mon cœur tremblait, j'allais enfin rencontrer Audouin Dollfus, que je n'avais encore jamais eu l'occasion de rencontrer. Et comme bien souvent, ce genre de personnage tout à fait extraordinaire est une très très grande modestie, d'une très grande gentillesse. Il m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse et d'affection. On a eu une heure de discussion à bâton rompu. Et la petite anecdote, c'est qu'au bout d'un moment de discussion, tout d'un coup, il me coupe la parole et il me dit tout d'un coup, je dois vous dire, me dit-il, en m'adressant la parole, que j'ai été ému en vous ouvrant la porte. Alors je dis, monsieur Dollfuss, il y a erreur. S'il y a quelqu'un qui est ému ici, c'est tout de même bien moi. Il me dit, si, quand je vous ai ouvert la porte, j'ai cru voir en vous Nicolas Copernic. Alors je dis, monsieur Dollfuss, on ne m'a jamais fait le coup, quand même. Ah, mais si, c'est frappant. Vous ressemblez, vous êtes le portrait craché de Nicolas Copernic. Ah, bah, je dis, monsieur Dollfuss, comme vous le savez, au cours de mon voyage, je dois m'arrêter à Cracovie, la ville universitaire de Nicolas Copernic, où j'ai rendez-vous avec le conservateur, et je vais découvrir le fameux tableau de Nicolas Copernic, et je vous promets de me faire photographier avec ce tableau et de vous envoyer ensuite l'image. Et au moment où on s'est quitté, il m'a accompagné au pas de la porte de sa maison, il m'a serré, j'ai encore la chaleur de sa main, où il me prend la main, il me souhaite bon voyage, il me dit, j'aurais tellement pouvoir aimer vous accompagner dans ce voyage d'éclipse, et je le remercie, je me confonds en excuses pour le remercier pour son accueil, et il me dit, c'est moi qui vous remercie, rencontrer Nicolas Copernic de son vivant tout de même. Voilà, ça c'est tout l'humour d'Audouin Dollfuss. Alors, au cours de ce voyage, on s'arrêtait au fameux observatoire de la tour Einstein à Potsdam. Alors là, c'est tout l'avantage d'avoir une chambre photographique et l'appareil photo des architectes pour pouvoir photographier dans toute sa beauté ce bâtiment absolument emblématique de la relativité générale. À Prague, c'est le rendez-vous de Kepler avec Tycho Brahe. À Cracovie, eh bien, c'est la découverte du trésor de Nicolas Copernic au Collégium Maius, dans l'université de Cracovie, avec ces fameux instruments avec lesquels Nicolas Copernic a probablement découvert et appris l'astronomie, puisque ce sont les instruments qui étaient dans l'université du Collégium Maius dans les années 1490, au moment où Nicolas Copernic était en train de faire ses études. Alors, tout ce voyage en train, eh bien, va être à l'origine d'un livre que vous voyez ici, d'un film, où nous allons donc aller jusqu'à Novosibirsk, en Sibérie, 7000 km de train pour aller observer 2 minutes et 18 secondes d'éclipse totale de soleil. Je vous montre juste ces quelques images prises en rafale, c'est juste pour le bonheur, voilà, de plaisir, de revivre un tout petit peu cette éclipse qui a été absolument d'une beauté saisissante, avec, vous l'imaginez bien, le doute jusqu'au dernier moment. Toutes les prévisions météorologiques la veille de l'éclipse étaient catastrophiques, on n'avait aucune chance de voir l'éclipse, puis il y a des miracles comme ça qui se produisent. On n'a pas eu un beau temps. Non, c'était sidéral, c'était sublime, plus un seul nuage dans le ciel, une éclipse vraiment d'une très très grande beauté, et l'image que je rêvais de faire, ce n'est pas du numérique, c'est de l'argentique, il n'y a pas droit à l'erreur, une image que je ne vais découvrir qu'à mon retour en France, c'est cette image prise à la chambre photographique, où vous voyez ce lac sibérien en premier plan, avec la forêt de cette Sibérie face à laquelle nous nous trouvons, puis ce lac qu'on appelle la mer d'Ob, et puis tout le film de l'éclipse enregistré sur une seule image. Alors, vous pourriez vous dire éventuellement, parce que rien n'est automatisé, bien entendu, hein, pas d'électronique, hein, c'est de la mécanique, donc il faut que j'appuie sur le déclencheur toutes les 15 minutes, et peut-être pourriez-vous vous dire, ah, Olivier, t'as oublié d'appuyer sur le déclencheur ici, là. Il manque une image. Eh bien, si, pour le principe, j'ai appuyé sur le déclencheur, mais à ce moment-là, le ciel était couvert. Et j'adore, mais j'ai appuyé sur le déclencheur, pour le principe, voilà. J'adore cette absence, nous sommes ici, vous voyez, un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, nous sommes une heure avant la totalité et une heure avant la phase totale. Mais rien n'était gagné, le ciel était couvert, je peux vous dire que le cœur battait à toute vitesse, et j'adore cette absence sur l'image parce qu'elle matérialise la potentialité de l'échec. Il faut avoir beaucoup d'humilité, bien entendu, lorsqu'on fait de l'astronomie face aux forces de la nature. Alors juste, voilà quelques images, je ne vais pas vous montrer toutes mes images d'éclipse, ça c'est celle de janvier 2009 qui n'a pas été une éclipse très médiatique, je connais aucun collègue qui est allé voir cette éclipse hein, de janvier 2009 qui était une éclipse annulaire de soleil qui était visible au sud de Sumatra dans des conditions astronomiques qui n'étaient pas automatiquement simples mais qui personnellement m'intéressaient justement par l'intérêt astrophotographique que l'on pouvait y faire. Le côté très amusant de cette éclipse, c'est que nous sommes partis donc avec mon épouse Maggie totalement à l'aventure, en sac à dos etc. avec la chambre photographique, on est partis pendant quasiment 2 mois totalement à l'aventure dans ces régions qui ne sont pas du tout touristiques. Hein, Sumatra, ça n'a rien à voir avec Java. Pendant 15 jours, 3 semaines avant l'éclipse, on n'a pas croisé un seul étranger et il y a eu cette magie où on est arrivé près de ce petit village village d'une cinquantaine, centaine d'habitants. Vous en voyez ici les cases derrière. Nous sommes présentés au chef du village pour avoir l'autorisation d'observer cette éclipse. Et ce qu'on avait un petit peu compris depuis quelque temps, c'est que personne n'était au courant qu'une éclipse allait se produire. Le gouvernement indonésien n'avait fait aucune campagne de prévention et je me suis retrouvé dans une situation digne de Tintin au temple du soleil. J'annonce que le soleil allait disparaître, la lumière devenir étrange et ça se passe à la seconde à laquelle je l'annonce. Les gens pleuraient, nous ont embrassés, nous ont comblés de cadeaux, etc. Ça a été absolument quelque chose d'extraordinaire. On avait préparé, on avait heureusement des rouleaux d'astrosolar et avec des cartons la veille de l'éclipse, voyant que le gouvernement indonésien n'avait rien fait, qu'il n'y avait pas de lunettes spéciales éclipse, on a préparé avec des feuilles astrosolar tous les moyens de précaution possibles. On en avait des dizaines qu'on a donc offert ainsi. J'adore cette image. C'est pas une image astrophotographique, mais c'est précisément une image qui est pour moi le plus beau souvenir. C'est l'image préférée pour moi de cette éclipse parce qu'elle catalyse les rencontres humaines extraordinaires que l'on peut faire au cours de ces voyages. Je n'ai pas vécu un voyage d'éclipse astrophotographique sans avoir une rencontre humaine, interculturelle, d'une force extraordinaire. C'est la magie de l'astrophotographie et notamment la magie des éclipses où finalement ce sont les lois de la mécanique céleste qui vous imposent d'aller à un endroit de la Terre où vous ne sauriez probablement jamais aller. Donc c'est vraiment cette magie des calculs qui font que vous allez être ici et vous vous retrouvez dans des situations, bien entendu, que vous n'aviez pas du tout prévues. Alors voici, sur cette image, vous voyez ma main. Dans ma main, j'ai un filtre et puis le paysage derrière. Alors, ce paysage est très particulier et très symbolique puisque ce que vous voyez ici, c'est la baie de Krakatoa. Et Krakatoa, c'est un nom qui résonne pour vous, peut-être pour ceux qui s'intéressent à la vulcanologie, puisque le Krakatoa, c'est un volcan qui a totalement explosé en 1883, à l'origine des catastrophes les plus incroyables de ces derniers siècles. Et ce que vous voyez ici, c'est les restes de ce volcan avec le nouveau Krakatoa qui est en train de sortir de mer. Voici l'image prise avec la chambre photographique. Avec cette image, on est sur la ligne de l'équateur, donc le soleil se couche à la verticale, la phase annulaire de l'éclipse, et puis le soleil couchant dans la baie de Krakatoa. Je ne vais pas vous présenter l'éclipse de Chine où on est allé ensuite, mais juste encore deux éclipses. Celle-ci, vous allez voir, va être très très importante pour un projet dont je vais vous parler à la fin de cet exposé. C'est l'éclipse du 15 janvier 2010, qui a été la plus longue éclipse annulaire de soleil du siècle, dont vous avez ici la bande d'observation de la phase annulaire. Et nous avons décidé, avec mon épouse Maggie, de venir ici, au Kenya. Vous avez donc ici le lac Victoria. Et nous allons aller dans cette région du monde où le film Out of Africa a été tourné. Et ça va être un coup de cœur. Ça va être pour moi un changement dans ma vie, c'est une découverte d'un territoire, d'un paysage absolument extraordinaire, de la faune sauvage. Là, vous avez ici ces troupeaux d'éléphants qui sont en train de s'approcher de nous. Autant vous dire que c'est nous qui avons décarpi ensuite. Et dans un monde extraordinaire, celui du Rift Valley. Donc voici mon épouse, que l'on surnommait Karen Blixen. Nous sommes dans un paysage digne de Out of Africa. Nous sommes sur le Rift Valley. Ici, vous avez le lac Baringo, dont je vais vous reparler tout à l'heure parce que je suis maintenant très, très souvent là-bas. C'est la Mecque des ornithologues de l'Afrique orientale. Nous sommes sur le bord d'une falaise d'ocre face à un paysage africain sublime, ma chambre photographique qui prend une prise de vue toutes les 15 minutes, la passoire à nouilles classique pour faire des sténopées au moment d'une éclipse. Ça, c'est toujours très, très amusant à réaliser. On voit l'image de l'éclipse multipliée en autant de trous de sténopée que nous en avons dans la passoire. L'image que je réalise en tenant ma main le filtre et on a l'anneau parfait de l'éclipse, ça a été vraiment une éclipse d'une très, très grande beauté dans un paysage, dans une ambiance animale, sauvage, absolument sublime. La lune qui rentre à l'intérieur du soleil, c'était une éclipse de 8 minutes, d'une durée donc vraiment extrêmement sympathique. Et puis l'image prise avec ma chambre photographique, où sur la même image, je vais additionner mes séries de prises de vue où je me suis arrêté volontairement, tel un point sur un i, sur la phase annulaire de l'éclipse. La petite anecdote, c'est que cette image est prise sans aucun trucage, mais il y a quand même une astuce, c'est que bien évidemment, ce n'est pas l'accumulation des images prises avec un filtre, puisque face au soleil, j'ai la nécessité de mettre un filtre solaire devant l'objectif de ma chambre photographique, et ce n'est pas l'accumulation des images qui va permettre d'avoir le paysage. Donc il y a une nécessité d'avoir à un moment donné une prise de vue sans filtre qui va surimpressionner sur l'image le paysage, et ensuite les images prises avec les filtres qui vont permettre donc d'additionner les prises de vue solaires. Normalement, ce que vous avez vu notamment temps pour l'éclipse totale soleil en Sibérie ou l'éclipse annulaire de soleil en Indonésie. Je profite soit du moment de la phase totale du soleil, de la phase totale de l'éclipse pour enlever le filtre et faire ma prise de vue de la phase totale et là le paysage se révèle, ou si c'est une éclipse annulaire de soleil, je fais en sorte d'avoir à un moment donné le soleil qui se couche ou qui se lève et de faire sans filtre la photo du lever ou du coucher du soleil, c'était le coucher du soleil en l'occurrence en Indonésie. Et donc là dans mon programme de prise de vue, normalement c'était au moment où le soleil se levait, on a une image absolument sublime normalement avec le reflet du soleil sur le lac Baringo, que je faisais ma prise de vue sans filtre d'un lever de soleil, je mettais le filtre et ensuite toutes mes images se succédaient sur le chapelet de l'éclipse. Et malheureusement, au moment du lever du soleil, on avait une mer de nuages, on n'avait aucun doute sur le fait qu'on allait observer l'éclipse parce qu'on n'avait aucune inquiétude là-dessus, mais malheureusement, le lever de soleil était très très laid et aucune image n'était possible. Or, pour réaliser une série de chapelets d'éclipse, ce qui est très très important, c'est que vous avez une grille de prise de vue qui doit être absolument centrée sur le moment de la phase annulaire, c'est-à-dire que votre première prise de vue, il faut absolument que toutes les prises de vue soient échelonnées exactement pareil pour à un moment donné arriver à une prise de vue que vous êtes pile dans la phase annulaire. Donc votre créneau de première prise de vue est quand même extrêmement limité. En l'occurrence, on va dire de 5 minutes, j'ai seulement 5 minutes pour réaliser ma première prise de vue avec le paysage. Et ben, c'était trop tard. Au moment où le soleil sort des nuages, j'avais dépassé ce créneau de 5 minutes, donc je suis obligé de commencer avec une nouvelle grille et de commencer, le soleil est trop lumineux, donc directement avec le filtre, donc sans le paysage. Je fais mes photos, je m'arrête à la phase annulaire et donc pour avoir le paysage, il fallait attendre que le soleil désormais sorte du champ de prise de vue de ma chambre photographique pour plusieurs heures plus tard réaliser l'image. Mais du coup, on sera arrivé à midi. Pour ceux qui sont allés à midi en Afrique ou à l'Équateur, le paysage est très laid, vous n'avez plus aucune ombre, c'est laiteux, c'est blanc, ce n'est pas du tout beau. Donc il fallait que j'attende du coup le soir suivant pour avoir une lumière rasante, pour enfin avoir un paysage intéressant, digne, qui puisse surimpressionner sur mon image. Or, on était totalement crevés, on était levés depuis 3 heures du matin, on a fait de la piste, du 4x4, etc. Et donc, il fallait quand même rester une journée entière. Notre guide africain, en Afrique, tout est possible, notre guide africain Julius, à qui j'explique mon problème, me dit, écoute, j'ai un petit cousin qui est par là, on voulait lui téléphoner avec mon téléphone portable. Le téléphone portable marche partout en Afrique. C'est absolument extraordinaire. Ils ont raté la technologie du téléphone fil, mais alors tout le monde a un smartphone. Moi, j'ai un téléphone totalement merdique, mais alors là-bas, ils ont le dernier cri du smartphone, tout fonctionne. C'est assez étonnant. Donc, il téléphone à un petit cousin qui arrive un quart d'heure plus tard en moto sur la piste. On lui explique le truc, prêt à le payer royalement un bakchiche pour accepter de rester toute la journée à l'ombre d'un arbre. On lui a laissé une glacière, enfin, etc. Et je lui dis, surtout, tu ne quittes pas de l'œil ma chambre photographique. Il y avait des singes, donc il fallait surtout pas que les singes se mettent à danser tout d'un coup sur la chambre photo. Il faut évidemment que l'appareil ne bouge pas d'un millimètre. Ah, il m'explique que oui, ok, donc voilà, on lui met un petit fauteuil et il passe une journée entière par 40 degrés à l'ombre, il était à l'ombre, je vous rassure, et il ne va pas quitter de l'œil ma chambre pendant qu'on se fait pendant une petite pause. On revient vers 17h avec le 4x4, je peux vous dire que j'avais un petit peu le cœur qui tremblait parce que j'avais laissé comme ma chambre photographique que j'avais enveloppée de protection, etc. Mais il ne fallait surtout pas que ça bouge d'un millimètre. Et puis vers 17h, on revient, j'étais debout dans le 4x4 à essayer de voir quand est-ce que j'allais voir ma chambre. Je vois la chambre et je vois le jeune noir qui était sur le fauteuil, il n'est pas bougé d'un millimètre, les yeux fixés sur la chambre photographique. On le paye royalement et puis je commence à enlever tous mes tissus, j'attends le moment où le soleil allait baisser pour avoir une lumière bien rasante et puis là on voit le jeune Kenyan qui était très surexcité, qui passait plein de coups de fil avec son téléphone portable. Je dis tiens, c'est curieux, il avait l'air très un petit peu énervé, très très excité, enfin, mais très joyeux en même temps. Et puis on voit arriver 5-10 minutes plus tard plein de jeunes Kenyans en moto sur la piste. Ils mettent leur moto en catastrophe sur le bord de la piste et ils se mettent en arc de cercle en train de me regarder derrière moi, les yeux grands ouverts, en train de me regarder. Et je comprends tout. Le jeune Kenyan leur avait téléphoné en disant « Il y a un blanc qui vient de me payer rubis sur l'ongle pour garder une machine pendant une journée entière. Il est en train de la préparer, ça va péter dans tous les sens, il va y avoir un feu d'artifice, ça va être sublime. Il ne faut surtout pas rater. » Et donc, ils attendent comme ça, les yeux grands ouverts, curieux de la boule de feu probablement qui allait sortir de mon appareil, de feu d'artifice. Et puis moi, très concentré sur ma prise de vue, je refais ma mesure de la lumière, je vérifie mon diaph, le temps de pose, je refais ma mesure de la lumière, j'attends, parce que là, vous n'avez droit qu'à un seul coup, hein, vous n'avez droit qu'à une seule prise de vue. Puis à un moment donné, je prends ma poire, mon déclencheur souple, puis on entend clic-clac. Et puis ensuite, j'ai monté la prise de vue. Et là, je vois les Africains qui sont comme ça. Et ils n'ont pas fait ça, mais ils se sont dit, ils ne sont pas comme nous, les Blancs. Ils ne sont pas comme nous, c'est des malades. C'est des malades. Alors, j'ai envoyé une photo, un tirage photographique à ce jeune Kenyan. C'est grâce à lui, vous voyez, que j'ai réalisé cette image. Voilà le genre de rencontre. J'aurais juste terminé, j'en ai fini avec les éclipses, sauf avec cette dernière, pour vous montrer quand même cette éclipse de 20 mars 2015. Magnifique éclipse qui, en France, très malheureusement, n'a pas été particulièrement spectaculaire, à part quelques rares heureux qui ont pu la voir, à l'origine d'une belle polémique aussi avec l'éducation nationale. Donc, bande de totalité pour l'éclipse du 20 mars 2015 qui a passé par seules deux terres immergées, plus un minuscule îlot. Mais il y a vraiment deux terres immergées où l'éclipse allait être visible. Ce sont les Svalbard et puis l'archipel des Féroé. Alors, évidemment, c'est une éclipse avec laquelle je pensais bien y aller depuis un certain nombre d'années. Et on a décidé, en famille, d'aller observer cette éclipse totale de soleil des Féroé, dont vous voyez ici le timbre officiel. Et nous allons partir avec notre fidèle Land Cruiser, notre BJ75, 610 000 km au compteur à l'époque. Et nous partons en famille avec notre petit bonhomme Elouane, qui avait 21 mois. Ce n'était pas son premier voyage. Il y a deux types de véhicules pour Elouane, hein. Il y a les 4x4 et les autres. Voilà. On va partir 2 mois. Alors, il n'est pas amphibie, hein, faut pas exagérer. Hein. On a embarqué le 4x4 sur un bateau. On a traversé pendant 2 jours et 2 nuits l'Atlantique Nord. On va riper sur l'archipel des Féroé, qui ne sont pas particulièrement très connus par le tourisme. On connaît surtout sur le problème du la fameuse baleine, là, le bolycéphale, qui est tué de temps en temps là-bas. Mais ce n'est pas particulièrement très touristique. Hathor, c'est un archipel sublime, 18 îlots, 18 confettis posés au milieu des tempêtes de l'Atlantique Nord, en sachant que en dehors des îles les plus au sud, qu'on ne peut atteindre quasiment que par hélicoptère, où nous sommes d'ailleurs allés pour les visiter, toutes les îles du nord, les principales, sont toutes quasiment reliées par des tunnels. Alors, ce sont des tunnels très particuliers, ce sont des tunnels sur une seule voie, il n'y a pas de feu. Il n'y a aucune lumière fluorescente et ils font parfois 6-7 km sous l'Atlantique Nord et ils passent d'une île à une autre. Donc lorsque vous vous engagez, si vous n'êtes pas prioritaire, vous regardez bien avant si vous voyez des lumières dans le fond du tunnel et là vous vous engouffrez dans un tuyau complètement noir, sombre. Et si jamais vous croisez sous l'Atlantique Nord un autre véhicule face à vous et que vous n'êtes pas prioritaire, vous êtes obligé de reculer jusqu'à ce qu'il y ait une petite aire de garage mais qui n'est pas du tout indiquée par des lumières, etc. C'est un peu particulier, il faut bien le reconnaître. 40 000 habitants sur les îles Féroé, 80 000 moutons. Nous sommes dans un paysage absolument époustouflant de beauté. Paraît-il, je me méfie des offices de tourisme, mais paraît-il que ce seraient les plus hautes falaises du monde, plongeant dans l'océan. Vous avez effectivement des falaises de 800 mètres de haut au milieu de tempêtes absolument extraordinaires. Bon, voilà la vie à l'intérieur du 4x4. Elouane se porte très bien. On a dormi 2 mois dans le 4x4. On se réveillait le matin par des températures de 3 ou 4 degrés, mais on n'a pas eu un seul rhume, pas un seul problème. Et ça a été une aventure extraordinaire. Île volcanique, vous devinez, je pense, la tempête qui arrive. Ça fait 600 mètres de haut. Donc vous devinez ici les deux petits rochers qui sont là, la taille que cela peut faire. Il y a quelques îles, elles n'étaient accessibles que par des bateaux de ravitaillement. Je pense que vous devinez ici que Maggie a très très froid, qu'on est vraiment dans des tempêtes particulièrement rudes. Alors ça n'a rien à voir avec l'Islande, puisque les eaux sont baignées par le Gulf Stream. Donc on a des températures qui ne descendent quasiment jamais en dessous de 10 degrés. Par contre, le ressenti froid est absolument terrifiant, puisque vous avez toujours des vents extrêmement violents, à côté duquel la tempête Xynthia en France était une brise comparée à ce que nous avons vécu au Féroé. Alors voilà le genre de paysage ou de situation dans laquelle nous étions. Là, nous sommes ici sur l'île Vagar, qui est l'île la plus à l'ouest, la plus extrême des Féroé. Vous voyez ici le 4x4, là il est 6h du matin, il faisait moins 10 degrés dehors. J'ai laissé Maggie et Elouane qui dorment en ce moment dans le 4x4, et à 4h du matin, je me suis levé, j'ai pris tout mon matériel de prise de vue, j'ai fait environ 2 km pour contourner une anse. Là, c'est un zoom dans l'image, et vous allez découvrir le lieu où nous nous trouvons. Vous voyez ici le 4x4, et voici le zoom final arrière de l'image de prise de vue. Le 4x4 est situé ici. Ça fait 200 mètres de haut. Donc vous voyez, le genre de paysage, c'est absolument époustouflant de beauté. Alors évidemment, les Féroé, le cercle polaire, aurore boréale. Alors chaque nuit, c'est très dur de vivre avec un astrophotographe, mais je pense que certains et certaines doivent le savoir. Je mettais le réveil toutes les heures et demie, toutes les deux heures, pour éventuellement espérer, surtout quand il y avait des annonces éventuellement de prévision d'aurore, pour essayer de voir une aurore. Malheureusement, je n'en voyais jamais, les conditions n'étaient pas toujours idéales. Voici le fjord que nous avons choisi après 3 semaines de repérage sur toutes les îles pour observer cette éclipse. L'éclipse totale du soleil doit être précisément ici. Et voilà, vous reconnaissez ici l'entrée du fjord, vous voyez cette montagne. Voilà le paysage la veille de l'éclipse à midi. Eh bien, c'est pas génial. C'est pas génial. Toutes les prévisions météo sont absolument catastrophiques. Donc, il n'y a jamais de soleil. Voilà. La veille de l'éclipse, tempête épouvantable. Au début de l'éclipse, les trépieds photo tombaient par terre. C'était simplement épouvantable. Et puis, au moment où la phase partielle est commencée depuis 10 minutes, Maggie crie une éclaircie, miracle. Du ciel bleu apparaît. On équipe Éloane de ses lunettes spéciales éclipse. À 21 mois, il vit sa première éclipse totale de soleil. C'est quand même assez sympa. Et vous avez la lune et le soleil qui vont apparaître au milieu des nuages dans un paysage totalement dantesque. Vous voyez ici le croissant de lune. Nous sommes le croissant de soleil. Nous sommes ici 7 minutes avant la phase totale. Nous sommes ici 1 minute 24 secondes avant la totalité. Le paysage vient d'une très très grande beauté. Vous avez ici le petit fin croissant de soleil qui se réduit comme une peau de chagrin. Les nuages courent dans le ciel, le vent est extrêmement violent. Vous voyez ici des éclaircies, les nuages viennent par derrière. J'essaye de calculer, nous sommes 1 minute 24 secondes, nous sommes 1 minute 20, nous sommes 1 minute. Ça devrait marcher, ça devrait marcher, ça devrait marcher. Et ça n'a pas marché. Ah oui, un nuage stupide, évidemment, un nuage est toujours stupide, va rester bêtement sur la phase totale de l'éclipse. Nous n'allons pas vivre l'éclipse totale du soleil, ce n'est pas grave, on peut avoir beaucoup d'humilité dans ce genre de phénomène. On a néanmoins vécu un moment d'une très très grande beauté, puis il y a cette photo dont je suis très très fier, c'est le moment du diamant, la fin de la totalité, 2 minutes et 15 secondes plus tard, eh bien, vous avez le diamant de lumière du soleil qui se fraye un chemin entre deux montagnes sur le bord tangent de la lune, et là tout d'un coup, dans un moment absolument sublime, à travers les éclaircies, vous avez tout d'un coup le diamant qui se projette comme une guirlande de Noël sur cet océan Pacifique, Atlantique Nord. Et puis comme un pied de nez, quelques minutes plus tard, eh bien, l'éclipse va sortir des nuages, permettant à Éloane, en excellent observateur, comme vous pouvez le constater, de suivre le déroulé du phénomène. Alors, ce voyage au Féroé, c'est l'occasion d'une conférence normalement d'une heure et demie. Donc je vous montre juste quelques images, parce que ça a vraiment été un voyage d'une très, très grande beauté. Et puis, au retour, on monte sur le bateau. J'avais vu aucune aurore boréale, malgré tous mes réveils durant une heure et demie. Maggie, enfin, avec Éloane, se couche dans un lit après une douche d'eau chaude, la première depuis plusieurs semaines. Et puis, moi, très romantique, je monte sur le pont du navire, je vois qu'on s'éloigne des Féroé, je suis dans un moment d'un romantisme complètement fou en me disant peut-être que je ne reverrai jamais Féroé de ma vie. Et puis là, je regarde du côté du nord et là, je me frotte les yeux, je me pince. Une aurore boréale d'une beauté absolument incroyable. Je cours dans le navire, je réveille, j'extirpe Maggie de son lit en me disant « T'es sûr que ça vaut vraiment le coup ?»« Oui, ça vaut le coup. » Et là, pendant 3 heures, on va avoir un spectacle absolument super. Alors, photographier une aurore boréale sur un bateau qui bouge dans tous les sens, c'est quand même un gag. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec les images sublimes qu'on peut réaliser. Mais je réussis à faire des images au quart de seconde et en faire ce time-lapse qui finalement nous montre, elle a son intérêt pédagogique, c'est très très proche de ce que l'on voit dans la réalité. Alors là, c'est augmenté temporellement 12 fois, mais c'est vraiment très 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 proche, c'est quasiment ce qu'on percevait visuellement dans le ciel, donc une aurore boréale verte comme vous pouvez le voir, et ça a vraiment été un moment d'une très très grande beauté. Et le lendemain, nous étions au large des Shetland, on va avoir un coucher de soleil très très beau, malgré la présence de quelques nuages, on devine qu'on a une très belle transparence permettant peut-être de voir le fameux rayon vert que je vais enfin, pour la première fois de ma vie, photographier. On a même eu le rayon bleu que j'ai photographié ensuite, mais qui était un petit peu moins lumineux. Je voudrais terminer, quasiment, 2 éléments encore à présenter, par cette aventure qu'Eric a un petit peu dévoilée tout à l'heure. Eh bien, lors de mon voyage avec Maggie en janvier 2010, pour aller observer l'éclipse annulaire de soleil du siècle en Afrique, au Kenya, eh bien, nous avons eu une rencontre. exceptionnel, une rencontre avec Tony Crocetta. Pour ceux qui font de la photographie, qui s'intéressent à la photo, c'est un nom qui peut résonner. C'est un des plus grands photographes français animaliers au monde. Vous avez automatiquement déjà vu des images, sans savoir que c'est automatiquement des photos de Tony dans Géo, National Geographic, etc. C'est vraiment un des plus grands noms de la photographie animalière. Or, Tony travaille pour la même agence photo que moi, Bios Photo. On n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer. On va se rencontrer au Kenya parce que Tony a créé depuis 10 ans, avec un collègue et ami kenyan qui s'appelle Simon, une petite compagnie de safari d'une très très grande qualité spécialisée dans la photographie animalière. Ça s'appelle Melting Pot Safari. On s'est rencontrés. Pour Tony, l'astronomie, l'éclipse, ça a été une découverte totale et un coup de cœur. Il est venu avec son épouse, 3 ans plus tard, faire un stage d'astronomie dans notre observatoire à la Chapelle Aulis en Vendée. Et entre deux observations, c'était en avril, il ne faisait pas très très chaud, on s'est mis devant le feu de cheminée de notre petite maison et avec un bon petit verre de whisky, on est astronome et on sait vivre tout de même, eh bien là, Tony m'a révélé la véritable raison de son passage avec son épouse dans notre observatoire, me demandant, Olivier, est-ce que ça vaudra le coup de créer un observatoire dans notre camp de base à Baringo ou au Masai Mara? Ils ont 2 camps de base au Kenya. Je réponds oui, très certainement. Malgré le fait qu'on est sur l'équateur, on n'a pas la transparence du ciel qu'on peut avoir sous des latitudes différentes, mais on a un ciel très très pur, aucune pollution lumineuse, et l'intérêt au niveau photographie planétaire d'avoir toutes les planètes et la Lune et le Soleil qui passent au zénith. Et puis la nuit, on a la grande ourse d'un côté, la croix du sud de l'autre, on a l'ensemble du ciel. Donc je réponds oui, bien entendu. Est-ce que ça t'intéresse de créer cet observatoire? Nous, on le finance. Ah, je dis oui. Est-ce que ça t'intéresse de l'animer? Ah, je dis oui. Et on a créé un safari astro à la Out of Africa qu'on a baptisé de la piste aux étoiles. Alors, c'est ce qui fait que je suis désormais régulièrement, c'est ma base arrière désormais. J'étais il y a quelques semaines au Kenya. J'y retourne dans 8 semaines, en moins de 8 semaines de nouveau au Kenya. Donc, j'y suis assez régulièrement. Ça fait partie maintenant d'une partie de ma vie. Voici quelques photos animalières. Donc, quand on fait de l'astrophoto, on est bien équipé pour faire de la photo animalière. Là, il pleuvait. Vous voyez les traces de pluie de ces lions ici. Ici, un éléphant monstrueux qu'on a croisé avec notre Land Cruiser. Je peux vous dire que c'est nous, avec le Land, qui avons reculé. On ne fait pas le poids face à un éléphant comme ça. Et voici départ d'oiseaux. Enfin, voilà. Je vous montre juste quelques impressions absolument sublimes. Ici, c'est une fin de nuit avec cet acacia et ces grues qui se posent en cette fin de nuit dans le Masai Mara. Ça, c'est un autoportrait. Je me suis pris en photo. Alors, j'utilise, pour ceux qui connaissent, une AstroTrack. Vous savez, la petite monture équatoriale irlandaise qui est absolument superbe, qu'on emmène en voyage. C'est la monture équatoriale qui se met sur un trépied photo. Et ça, c'est une pose il y a à peu près environ 1 minute de pause photographique. Je suis sur le Land Rover de Tony. Et ben voilà, cette voie lactée absolument magnifique. Ici, une photo que j'ai prise également avec cet arbre perdu dans la savane. Alors, on entend les lions hurler, on entend les hyènes. Quand j'ai pris cette prise de vue, il y a le guerrier Maasai, parce que vous n'êtes pas tout seul, évidemment, vous êtes avec des guerriers Maasai pour vous surveiller les bêtes sauvages. Et puis, à un moment donné, il me tape là-dessus. Il me dit, t'as fini ta prise de vue? Je dis, oui, ça y est. Et puis, il prend la lampe, il éclaire. Puis, à 20 mètres, il y avait un hippopotame. L'animal le plus dangereux en Afrique, contrairement à son aspect balourd. Les accidents qu'il peut y avoir avec des animaux, c'est souvent avec un hippopotame. Autant vous dire que là, l'appareil photo et la monture AstroTrack, et on est parti en courant dans le Land. Alors, on a une lumière qui nous gêne beaucoup. Tous les soirs, tous les matins, c'est systématique, c'est la lumière zodiacale. C'est extrêmement pénible. On a toujours cette lumière zodiacale qui est vraiment absolument affreuse. Alors, voici Tony Crocetta, voilà. Voici une des photos. Ça, c'est une photo qui a été énormément publié dans Géo, dans National Geographic. Il y a 2 éléphants. Il y a 2 éléphants qui sont en train de se combattre ici dans la savane. Alors, avant de créer cet observatoire, Tony a voulu faire un petit test pour voir si ces voyageurs qui allaient venir dans ces camps de base faire des safaris allaient être intéressés. Donc, il a acheté d'abord un Celestron 8, et puis pour faire un petit peu de démonstration astronomique. Et puis, après une petite étude qu'on appelle une étude de marché, finalement, bien, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun souci. On va avoir des stagiaires. Il y a 1 heure d'attente. Bon, pour faire la prise de vue, il y a des pots de banane que j'ai mis sur l'oculaire. Voilà. Et puis, il n'y a aucun problème. On va avoir des stagiaires pour faire de l'astronomie. Alors, l'observatoire va être à 50 km de la ligne de l'équateur. Eh bien, je peux vous dire qu'installer un observatoire sur l'équateur, Ben, c'est pas simple, parce que, comme dit Tony, c'est marrant, vos montures équatoriales, elles portent le nom d'équatorial, mais il n'y a aucune monture dans le commerce que vous pouvez mettre sur l'équateur. Donc, on va devoir adapter par MEDAS. Donc, ça a fallu beaucoup de retours. Il a fallu contacter Célestron, ce qu'on a choisi de créer, de prendre un Célestron 14. Le choix n'était pas automatiquement évident, mais je pense qu'on a fait un très bon choix. Et donc, il a fallu faire une pièce que MEDAS nous a réalisée d'une manière vraiment superbe, une pièce qui a été fraisée pour pouvoir adapter la monture et la mettre sur la ligne de l'équateur. Alors, pour créer un observatoire, évidemment, je n'ai pas été là-bas en permanence en Afrique. Donc, une grande partie du travail, on va dire, de maçonnerie, de construction du bâtiment, etc., s'est faite à distance sans que je ne sois présent sur place. Donc, mes trois recommandations principales, j'avais envoyé les plans, etc., on avait beaucoup échangé avec Tony, faire très attention au matériel durant le transport, ça paraît totalement évident, on va transporter 100 kilos de Célestron 14 qu'on va monter dans les montagnes de Baringo. Le support de la monture du télescope doit être rigoureusement dans un axe nord-sud. Alors, la monture du Célestron 14 a un balancement en azimut de 15 degrés, donc on avait une marge de 7,5 degrés de part en part, voilà, ça laisse quand même une belle marge de manœuvre. Et très important, je disais beaucoup à Tony, il faut surtout que le pilier du télescope soit totalement désolidarisé du plancher ou de la surface du sol sur laquelle on va marcher. Premier problème, quand vous voulez créer un observatoire en Afrique, c'est que tous les gouvernements africains, y compris d'ailleurs du Moyen-Orient, considèrent qu'un télescope, eh bien, c'est une arme de guerre. C'est vrai que la ressemblance est assez frappante. Donc, c'est du matériel considéré comme sensible. Et là, il y a deux solutions. On déclare ou on ne déclare pas. On a fait le choix de ne pas déclarer. Voilà. Alors, comme Tony, heureusement, a un certain nombre de safaristes et d'amis photographes animaliers qui viennent régulièrement au Kenya, il y en a quelques-uns qui sont déguisés en parfaits touristes, en short, etc. On se croyait dans un film de Lino Ventura. Et pendant quasiment 15 jours, vous avez eu un train comme ça d'avion avec différents touristes qui sont passés à la douane avec des caisses, le C-14 démonté. Mais alors, démonté, vous imaginez pas, j'étais complètement vert en me disant, mais dans quel état je vais retrouver tout ça? Et qui ont tout passé au nez et à la barbe de la douane. Ce qui est quand même assez comique. Deuxième problème ensuite, il va falloir transporter tout le matos de Nairobi jusqu'à l'observatoire à Baringo. Et là, vous avez quand même 7 heures de route et de piste. Or, quand j'arrive un mois après l'arrivée du C-14, Tony m'attend avec son Land Rover à l'aéroport. Et là, je découvre la manière de conduire de Tony. 7 heures de piste. Tony, que je surnommais désormais Lino Ventura, eh bien, a une conduite assez particulière qui ressemble effectivement à Lino Ventura, notamment dans le film Ne nous fâchons pas. Alors là, moi, je suis Michel Constantin dans la voiture et régulièrement, je lui demandais, mais tu ne veux pas que je prenne le volant ? Tony a une conduite très particulière et je me disais, le C-14 a vécu cela pendant 7 heures. Dans quel état optique je vais retrouver mon télescope là-bas ?
Tu veux pas que je prenne le volant ?
Non, non. Quand je conduis pas, j'ai peur.
Mais finalement, on va arriver à Baringo. Alors voilà, ça c'est la vue depuis ma chambre à Baringo, c'est quand même assez sympa. Ça, ce sont nos stagiaires safaristes qui, après une nuit d'observation astronomique, eh bien là, ils sont en train de partir sur le lac Baringo, aller observer. Il y a 500 espèces d'oiseaux. C'est le bonheur absolument total. Voici ma chambre. Voilà. Alors toutes les chambres sont pareilles. Si vous voulez venir faire un safari astro, voilà le genre de chambre que vous aurez. C'est quand même assez sympa. Voici tout le télescope, donc que l'on va maintenant défaire des mâles. Ma première inquiétude, évidemment, c'est le C-14. Tiens, c'est marrant. Quand on sort le C-14, ça ne fait pas de glang-glang. Apparemment, l'optique a tenu. Je fais une petite collimation rapide comme cela. Incroyable. On croirait qu'il sort du magasin. La collimation, visuellement, comme ça, me paraît pas mauvaise du tout. Et puis, maintenant, je vais aller voir l'observatoire. Alors, les stagiaires arrivaient 4 jours après. Donc, théoriquement, moi, mon boulot pendant 4 jours, c'est d'aller installer le C-14 avec sa monture dans un observatoire flambant neuf, faire ma petite méthode bigourdant de mise en station, etc., les petits rodelages, collimation, etc. Puis, on organise le stage. Et voilà ce que je découvre. Ah oui, on est en Afrique. Et là, l'associé kenyan, qui est un Africain extraordinaire, qui parle un français d'une qualité exceptionnelle, Simon me dit, ne t'inquiète pas, Mister Olivier, tout va bien. La maçonnerie, on est en train de calculer le temps de séchage. voyez qu'il y a entre tous les piliers qui sont là, parce que sinon tout va s'effondrer. Il n'y a même pas d'escalier pour monter sur la plateforme. Et là, je vois 20 mecs en train de travailler. Il y a l'électricien qui a une espèce de tournevis qui ne s'allume même plus du tout. Il y a le maçon, il y a les charpentiers, les menuisiers. Mais j'ai m'étonné, c'est une catastrophe totale. Les stagiaires arrivent dans 4 jours. T'inquiète pas, Olivier, tout va bien, on est en Afrique. Alors on va installer, pendant que les gars sont en train de bosser encore, il y a la bétonnière, enfin, etc. Et donc j'installe ma monture. Et là, le côté très très marrant, c'est que même si vous faites de l'astronomie depuis 30 ans, il y a un moment donné, quand vous êtes sur l'équateur, vous êtes complètement paumé. Alors je demande à Tony, alors bon, on va orienter la monture. J'ai oublié ma boussole, zut, excuse-moi. Est-ce que tu peux me dire où est le nord ? Il me dit, bah, le nord, il est là. Ah, je dis, c'est pas possible, tu te trompes, le soleil vers le nord. Il me dit, bah si. Ah bah oui. On est sur la ligne de l'équateur. On était au mois de juin. Donc oui, c'est logique. Le soleil passe au nord. Tous vos repères, même si vous connaissez tout par cœur. Enfin, voilà, c'est... Mais quand vous vous trouvez dans la situation, ben, ce n'est pas du tout évident. Je peux vous dire, faire une méthode bigourdant quand vous êtes sur la ligne de l'équateur, ce n'est pas si simple que cela. Voici le montage du tube du télescope. Alors, ce qui est génial en Afrique, c'est que dès que vous faites quelque chose, vous avez 20 bras qui vont vous aider. Et puis, ben, voilà, le tube est installé. Là, on se rend compte que la cabane, bah, elle n'arrive pas à prendre le télescope. Donc là, il est en train de couper en même temps que je suis en train d'observer. Voilà. Et puis là, je me rends compte, Tony, ah, y a un truc que j'ai complètement oublié de te dire. Bah, oui, à un moment donné, l'oculaire est quand même relativement haut. Il faut absolument qu'on ait un petit escabeau pour pouvoir accéder à l'oculaire. Le truc bête, voilà, c'est stupide. Elle me dit, bah, t'es marrant, toi. Il n'y a pas de castorama. On est à 3 heures de piste de la ville la plus proche. Puis il réfléchit, il me dit, bon, écoute, pas de souci, on va appeler le menuisier du village. Alors, quand je dis le village, vous avez 4 cases, voilà, le mec arrive sur une petite moto sur la piste, on lui explique, voilà, je dessine un petit escalier, la hauteur, etc. Et puis, 2 heures plus tard, dans l'après-midi, 4 heures plus tard peut-être, il ne faut pas exagérer, je reviens sur la plateforme de l'observatoire pour faire un réglage. Qu'est-ce que je découvre ? Ça. En France, on attendra encore le devis. Hein. C'est en acacia, chevillé. Vernis, je ne sais pas comment ça a fait, hein, c'était sec. La pièce d'ébéniste, absolument extraordinaire. C'est ça l'Afrique aussi. C'est qu'ils font un boulot mais extraordinaire, absolument magnifique. Et vous avez Tony, absolument fou de joie, avec son nouveau bijou. Alors, a priori, tout va bien. Mais, on va voir si mes recommandations ont été parfaitement suivies. Voici, 2 mois plus tôt, le pilier du télescope. Pourquoi on fait si haut ? C'est que tout simplement, on est dans une végétation de petits arbustes, donc il faut absolument être à une certaine hauteur, ne serait-ce pour se protéger un peu des animaux. Alors, il n'y a pas de fauves sauvages, je vous rassure, mais voilà, des serpents, etc., même si il y en a vraiment très, très peu. Ce n'est pas du tout une région dangereuse. Hein. Mais voilà, d'être au-dessus des arbustes. Donc, vous avez ici un pilier de 3,70 m de hauteur et la plateforme va arriver ici à 2,50 m, grosso modo. Alors, j'avais bien prévenu Tony, évidemment, tu vas avoir des vibrations. Donc, surtout, il faut que le pilier ne soit pas du tout solidaire de la plateforme. Donc, tu mets un énorme coffrage de béton juste en dessous du pilier parce que, bah, évidemment, sinon, tu vas avoir ça. Alors, mise en service, les problèmes de vibration d'un pilier de télescope. Voilà, là, vous avez le pilier du télescope qui apparaît. Et voilà, si vous ne faites rien pour casser les vibrations, ce qui va se produire. Voilà. Donc, on va obtenir ceci. Évidemment, quand ils ont fait le pilier du télescope, eh bien... quand Simon était tout là-haut, l'associé kényan, eh bien, il y avait des vibrations absolument épouvantables quand il tapait dessus. Et puis, bah, il avait totalement oublié que Olivier, il avait dit, il faut surtout pas que la plateforme, eh bien, soit solidaire du pilier. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va bourrer de béton, de ferraille, de pneus, etc. Le lien avec la plateforme, avec le pilier. Et quand j'arrive, il y a Simon qui me dit, ah, Olivier, t'as aucune vibration. Alors là, je peux te dire, on a bourré là-dedans. J'ai dit, mais Simon. Ma troisième recommandation. Ah oui, mais il n'y a aucune vibration, je t'assure. Hein. Le soir même, on observe dans C14. Impossible d'observer. Quelqu'un éternuait sur la plateforme, ça faisait une vibration absolument épouvantable. On va devoir, sous un C14, avec 2 mecs hyper costauds, taper comme des brutes, des malades, autour du pilier de télescope pour enlever toute cette ferraille, ce béton, ce pneu. Ça a été un boulot complètement dingue. Je tremblais à l'idée de me dire il y a le C14 qui est quand même au-dessus. Et au bout d'une demi-journée de boulot non-stop, 5 heures de travail, on va enfin arracher tout ce béton et cet énorme pneu. On va couler un coffrage de béton en dessous de la plateforme et on a enfin un bâtiment parfaitement stable. Je fais enfin ma méthode bigourdant. Alors, je vais demander avant à ce que la base du télescope soit orientée le mieux possible, Voilà la méthode pour faire une méridienne éventuellement. Voici l'image deux mois avant. Alors évidemment, pour mettre la galette qui va permettre de soutenir la monture équatoriale, ce n'était pas du tout évident. Et donc, Simon va utiliser l'application Boussole de l'iPhone. Je vous déconseille très fortement. Mais alors très très fortement, parce que là, on va découvrir que l'application Boussole de l'iPhone avait un décalage de 8 degrés. Et j'avais 7,5 degrés de part en part. Un demi-degré qu'il manque. Je butais. Obligé de faire venir de France des tarots. On va devoir tout démonter. On va devoir rescier, revisser des tarots dans le pilier du télescope pour enfin installer la monture et le télescope qu'on va pouvoir inaugurer. Ça, c'est le moment de l'inauguration avec les premiers safaristes. La chose très amusante, on est vraiment dans Tintin au Congo. Je dis à Tony, ce serait marrant de pouvoir couper un petit ruban, faire inauguration. Et puis donc, il demande à ses employés noirs, essayez de me trouver un ruban. Et la seule chose qu'il trouve, c'est une guirlande de Noël. Ça, c'est l'Afrique, c'est délicieux, c'est absolument merveilleux. Alors, c'est très dur de photographier des noirs la nuit, au flash. Mais heureusement, là, vous aviez les cuisiniers. Donc, ça marche très, très bien néanmoins. Et voici le moment de l'inauguration du télescope. Et voici le C14. Donc, nous avons déjà organisé un certain nombre de stages. Ça, c'est le dernier que nous avons organisé, le passage symbolique de la ligne de l'équateur. Ici, lever de soleil sur le lac Baringo. Alors là, cette fois-là, c'était en juin de l'année dernière. On a un magnifique groupe de taches solaires qui étaient vraiment superbement visibles. Et là, alors là, il n'y a même pas de compositage. C'est l'image brute au C14. On peut faire beaucoup mieux, bien entendu. Et donc, ce groupe de taches absolument superbe, qui a été visible donc à l'observatoire. Et donc voilà quelques images, voilà prises vraiment très très rapidement. Alors ce qui est fantastique, c'est que vous avez la Lune qui se lève à l'horizontale, le croissant de lune à l'horizontale, puis vous avez toutes les planètes qui vont passer au zénith. Alors évidemment, vous avez des qualités de transparence, de turbulence, surtout de turbulence. On a vraiment, à un moment donné, quand vous avez Jupiter, Saturne qui est au zénith, c'est absolument exceptionnel. Et là, c'était en février dernier, vous aviez toutes les planètes visibles à l'œil nu, qui étaient toutes visibles en même temps. Là, le télescope est pointé sur Jupiter et tout monte à la verticale. Voici là juste quelques images prises au C14. C'est vraiment le début des prises de vue. Là, on va équiper d'une caméra CCD le matériel. Voilà, on va petit à petit bien s'équiper. Mais voici voilà, quelques images prises à l'observatoire. Là, c'est Tony que j'ai photographié avec le C14. Là, c'est Proxima Alpha du Centaure. Proxima du Centaure est juste à côté. Ça, c'est la Croix du Sud que vous voyez ici. Le nuage, le sac à charbon que vous voyez ici. Ça, c'est une image prise au 55 microniqueur avec ma petite monture AstroTrack. Vous avez ici Oméga du Centaure qui brille absolument magnifique. Là, la nébuleuse de la Carène, la plus vaste nébuleuse de notre galaxie. Bon, bref, voilà, juste quelques images qui parlent, je pense, d'elles-mêmes. Ici, un autoportrait. Voilà, je me suis pris en photo avec cette voie lactée absolument superbe. Et vous avez le Sagittaire qui passe quasiment au zénith. Voilà, et qui vous montre ces images, ce paysage avec des constellations. Au départ, vous êtes complètement perdu, bien entendu. Voilà une image prise au 55 microniqueur. Là, il y a une minute de pause, à peu près. Voyez, hein, donc, on n'a aucune pollution lumineuse, donc on a vraiment une possibilité de réserve de prise de vue absolument superbe. Là, on a le grand nuage de Magellan qui est juste derrière. C'est la lumière qui est juste située derrière. Voilà. Et puis, alors, toutes les nuits, on a quasiment le passage du télescope spatial Hubble. Donc, c'était toujours un moment très, très important. Alors là, c'est une petite time-lapse. Vous allez le voir passer. Il va arriver en haut, à droite, et vous allez voir voilà, le petit trait de lumière. Voilà, ça c'est le télescope spatial Hubble que chaque soir, chaque nuit, on voyait passer dans le ciel, ce qui n'est pas du tout habituel, bien entendu, sous nos latitudes. Ici, une petite mosaïque. Là, vous avez quatre images en mosaïque. Et puis, ce qui brille, là, de très lumineux, qui passe quasiment au zénith, c'est Sirius, que vous voyez ici. Voilà, le grand nuage de Magellan, Canopus, Orion, qui est dans une position tout à fait étonnante également. Et puis là, c'est un lever, ce n'est pas la Lune, c'est Vénus qui se lève et qui se reflète dans le lac Baringo avec le cœur de notre galaxie, le Sagittaire, qui se dévoile ici au-dessus du lac Baringo. Voilà. Je terminerai juste pour vous parler de la chapelle Hollis. Hein, si vous ne voulez pas m'accompagner au Kenya, eh bien vous pouvez venir me voir à la chapelle Hollis, un petit peu moins loin. La chapelle Hollis, c'est un petit village, 250 habitants, le seul commerce, un bar subventionné par l'Amérique et tenu par des Anglais. Et un village où personne n'avait jamais observé dans une lunette ou un télescope et que j'ai choisi pour installer mon observatoire astronomique il y a une dizaine d'années. Je n'avais aucune relation, aucune attache familiale ou amicale, et c'est vraiment après toute une recherche pour essayer de trouver un site astronomique le plus intéressant possible. Et le côté absolument magique, c'est que lorsque j'ai installé donc mon observatoire où j'organise des stages de découverte de l'astronomie, eh bien j'ai petit à petit contaminé tout le village, à commencer par le maire, ce conseil municipal, et eh bien nous organisons désormais un festival d'astronomie chaque année. Là vous voyez les quelques affiches réalisées par les membres de l'association. Le village est devenu village étoilé 4 étoiles, vous reconnaissez Paul Blu, le président d'honneur de l'ANPCEN, et la chapelle Hollis est devenue un lieu de important par rapport à cette question de la pollution lumineuse, puisque nous avons réussi à convaincre les 19 maires du canton pour signer la charte de protection du ciel nocturne. Et cette question de l'astronomie, de la protection du ciel nocturne, eh bien, vous voyez, est devenue en fait un argument économique. Aujourd'hui, si vous allez sur le site internet de l'Office de tourisme du Pays de la Châtaigneraie, dont nous faisons partie, eh bien, le slogan, c'est « Venez cueillir vos étoiles à la chapelle Hollis ». Si les étoiles sont belles, ça veut dire que la nature est belle, on peut faire de belles randonnées, ça veut dire que le paysage va être certainement sympathique, il y a une belle nature. Donc, c'est un argument économique, commercial, etc., qui, petit à petit, est en train de rentrer dans l'esprit des élus, des industriels, au point que... Une première en France, le Conseil général de Vendée, ainsi que le CIDEV, le syndicat d'énergie de Vendée, a signé la charte de protection du ciel nocturne. Et tout cela fait petit à petit des petits, puisque progressivement, différents villages du canton ou autour du canton sont en train de devenir eux aussi labellisés villages étoilés. Alors ce petit village où personne faisait de l'astronomie, voici quelques-uns des membres. La grande passion jusqu'à présent, c'était la chasse. Donc le grand rendez-vous annuel, c'était le repas de chasse. Et puis le repas de chasse est redevenu le repas de l'astronomie et de la gastronomie. Voilà, c'est l'astronomie avec le point G. On fait tout l'été des expositions astrophotographiques. Donc maintenant, l'été, lorsque vous venez dans le village... Eh bien, vous avez de grandes images astrophotographiques. Et puis, il y a 15 jours, on faisait notre fameux repas annuel gastronomique. 250 habitants, on ne peut pas prendre plus. Dans la salle, il y avait 130 personnes. C'est-à-dire qu'on avait la moitié du village. Voilà qui est là. Et voici le menu confectionné par mes soins. Pas la nourriture, juste le texte du menu et le cuistot. Il doit se faire là-dessus. Donc peut-être que vous aurez vous aussi envie de venir déjeuner désormais dans notre petit village des étoiles de la chapelle Hollis. Prochain festival, ce sera le 20 et le 21 août prochain. Ce sera un week-end avec pour thématique les mondes géants dans l'univers. Je vous remercie de votre attention.
Voilà, merci infiniment. Très très bel exposé. Y a-t-il des compléments, des questions ? Certainement. J'avais peut-être juste une petite remarque. Bon, tu m'en as parlé hier soir, mais l'histoire du télescope et le fait de le déclarer en arme ou pas. Est-ce que finalement, des fois, ça n'aurait pas été plus facile de le déclarer en arme, enfin, officiellement, de le déclarer sous forme officielle, il serait peut-être plus passé plus facilement
le transport d'armes. L'administration africaine, il faut se méfier quand même.
Oui, mais...
Là, on touche des problématiques, surtout avec la taille quand même de l'instrument. Qui fait qu'on rentre dans un processus qui n'est pas automatiquement simple. Donc je pense que c'était vraiment la meilleure solution de tout passer en douce.
C'était une sorte de boutade
par rapport au transport d'armes. Mais on a eu un mois où on tremblait un peu.
Alors moi, j'ai juste loupé la focale de ton casse-grain.
5 mètres 140. Voilà. Oui, une question ? Alors, est-ce qu'il y a un gîte pour aller observer?
Oui, tout à fait.
Il y a une offre d'hébergement, effectivement, autour de la chapelle aux Lys. Pas actuellement, pour l'instant encore, sur le site de la chapelle aux Lys, hormis mon observatoire. Mais on ne fait pas gîte. Hein. Les gens peuvent venir camper sur place au moment des stages. Par contre, vraiment, dans les villages autour de la chapelle aux Lys, il y a effectivement possibilité de louer des gîtes, des chambres d'hôtes. Et il y en a un certain nombre qui sont vraiment tout à fait bien positionné pour observer les étoiles. J'ai eu quelques collègues amateurs qui, après être venus au festival, sont venus en vacances, en famille, avec leur télescope, faire de l'astro, effectivement, l'été, autour de la chapelle aux Lys. Ouais. Si jamais vous avez besoin d'avoir une liste d'hébergement, vous allez sur mon site internet, vous me contactez, vous m'envoyez un mail, je peux vous envoyer une liste d'hébergeurs là-bas.
Comment vous trouvez le temps pour tout faire?
Oui, un point du temps qui est parfois un petit peu compliqué, effectivement. Oui, certains trouvent que j'ai un emploi du temps parfois un peu ahurissant, mais j'ai la chance de faire la vie que j'aime, voilà, qui est une vie qui n'est pas du tout constante, puisque le fait d'avoir trois activités très différentes, puisque lorsque je travaille avec un musée, lorsque je travaille avec sur l'œuvre de Jules Verne avec le monde littéraire, lorsque je travaille pour sur l'histoire des sciences en participant à des colloques ou à des travaux de recherche en histoire des sciences, en épistémologie, ou lorsque je fais mes voyages astrophotographiques, voilà, on est dans des domaines extrêmement différents, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant justement, et je trouve que c'est une belle richesse, et l'astronomie se prête bien de toute façon à des choses extrêmement transversales. Et j'ai la chance de pouvoir le vivre d'une manière très très forte. Ouais.
La monture dont vous avez parlé, AstroTrack,
oui,
est réservée aux appareils photo ou...
Oui, alors c'est une monture qui est quand même d'une bonne qualité, qui a dans les dernières versions, celles que j'ai d'ailleurs, la possibilité d'être connectée sur un système de suivi avec une petite caméra CCD au foyer d'une petite lunette qu'on peut mettre en parallèle, qui ne peut donner une action que sur le mouvement alpha. Hein. Il n'y a pas de mouvement en déclinaison. Mais l'intérêt de cette monture par rapport aux autres qui ont pu sortir, on a eu quelques montures équatoriales de voyage spécifiques appareils photo qui sont sorties. Mais l'avantage de l'AstroTrack, c'est que c'est en fait le modèle avec un secteur. C'est-à-dire que le bras qui se démultiplie fait à peu près 45 cm de long et vous avez une vis sans fin, modèle Pierre Bourges. Voilà, mais vraiment une qualité micrométrique qui fait que vous avez une qualité de suivi qui est vraiment très très bonne. Et cette AstroTrack vend soit la monture seule, vous pouvez l'acheter en fait sous différentes options ou acheter les options après d'ailleurs. Donc soit vous avez le modèle seul, vous pouvez l'acheter avec la lunette de visée polaire qui est très très bien faite, qui est magnétique, donc qui se met dans la monture et vous l'enlevez aussitôt après dès que vous avez fait votre mise en station, qui se fait quasiment en 5 secondes, qui est vraiment très très bien conçue. Mais AstroTrack vend aussi une base extrêmement stable qui permet de mettre la monture en latitude sur un très bon trépied et sur lequel, selon la publicité, vous pouvez mettre une lunette, une apochromatique, une petite lunette apochromatique, voilà, et faire des pauses quand même de quelques minutes avec un suivi qui reste vraiment très très bon. Donc moi je ne l'ai jamais fait, mais apparemment ça paraît être tout à fait possible. Mais c'est quand même une monture qui est à l'origine associée au fait que vous avez un bon trépied photo, il faut que vous ayez deux rotules, une bonne rotule pour que votre monture se mette en latitude, donc elle ne sert qu'à cela, qui va être la base de la monture, et ensuite une deuxième rotule photo que vous mettez sur la monture ensuite, sur laquelle vous fixez l'appareil photo. Alors l'avantage, c'est que ça ne pèse rien, ça rentre dans une petite housse que vous avez avec vous dans l'avion, et c'est vraiment extrêmement léger. Ce n'est pas très donné, mais c'est du très beau matériel, vraiment très très beau. Il y a une...
Vous nous avez parlé de toutes vos photos et apparemment vous faites beaucoup plus de photos en argentique et en photo et en chambre photographique. Est-ce que ça veut dire que la qualité des photos est beaucoup moins bonne en numérique?
Non.
Et pour le traitement, comment faites-vous? Parce que pour traiter les images,
oui.
Enfin, autrement qu'en numérique, c'est pas évident.
Oui, oui, oui. Alors, les images, ben, il faut qu'elles soient numérisées, effectivement, après. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser des scans qu'on appelle rotatifs aux éditions Actes Sud. Il n'y a pas beaucoup de scans rotatifs. Ce sont des scans où c'est une sorte de galette de verre, en fait, sur lequel on colle le plan film et le scan tourne et va numériser l'image avec une qualité qui est vraiment, vraiment super, qui vous permet d'avoir des scans de 300, 400, 500 mégaoctets sur des plans films de 4, 5 inches. Ensuite, le développement, il est vraiment très, très limité en numérique. Il est à partir de ces scans. C'est éventuellement juste pour nettoyer un petit peu l'image de poussière, de résidus, de petits défauts qui peut y avoir sur une surface argentique. Mais ça se limite vraiment à très, très, très peu de choses. C'est vraiment le travail de prise de vue et qui est l'aspect vraiment magique que j'aime dans cette prise de vue, c'est que vous n'avez pas droit à l'erreur. Voilà, c'est une philosophie de la photographie, voilà, que j'aime beaucoup. Mais par exemple, les dernières images que vous avez vues de voûtes célestes étoilées autour du télescope à Baringo, par exemple, au Kenya, c'est des images prises en numérique. Et là, j'ai pris des mosaïques d'images que j'ai ensuite additionnées sur le logiciel Altiplano et qui permet vraiment de faire des panoramiques extrêmement intéressants aussi en prise de vue en numérique. Voilà. Donc j'associe vraiment un petit peu toutes les techniques possibles selon ce que je veux photographier. Il est bien évident qu'en chambre photographique, vous n'aurez jamais des images de voie lactée comme je viens de vous montrer. Voilà. Ça, seul le numérique va vous permettre de faire ce genre d'image.
Merci pour cette invitation au voyage déjà. Ma question est portée sur l'avenir. Je voulais savoir quels étaient vos prochains projets et d'une manière plus générale, la vision que vous avez de votre avenir professionnel et personnel, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait la frontière entre les deux est un peu, c'est assez mélangée finalement. Voilà, c'est ma question, de savoir vos prochains projets, puisque la façon dont vous voyez votre avenir personnel.
J'ai toujours une vision seulement sur 2-3 ans, on va dire. C'est grosso modo la vision que j'ai. Avec des périodes de vie qui sont souvent groupées sur 2-3 ans, sur des grands projets que je monte. Enfin, j'essaye de monter des projets qui vont me prendre 2-3 ans, puis je passe ensuite à un autre projet. Le précédent gros projet que j'ai eu jusqu'à il y a 3 ans, ça a été de ma thèse de doctorat, voilà, en histoire des sciences que j'ai soutenue. J'ai, pour le principe, passé ma qualification de maître de conférence, donc je suis qualifié maître de conférence, je suis chargé de cours à l'Université de Nantes, mais je n'ai pas de poste et je ne cherche pas automatiquement à en avoir, parce qu'en histoire des sciences, il y a très peu de place, il faut être prêt à circuler, on va dire, sur toute la France, et ce n'est pas automatiquement mon objectif. Par contre, le gros projet que j'ai, j'espère, ce ne sera peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, c'est que je dois publier aux éditions Actes Sud une version de ma thèse de doctorat, donc sur les observatoires, l'histoire des observatoires astronomiques au service des marins en France au 18e et au 19e siècle. Donc ça, c'est un projet auquel je tiens beaucoup. Donc là, c'est ma partie histoire des sciences. Sur ma partie Jules Verne, je suis en train de finir un boulot complètement hallucinant qu'on a commencé il y a 4 ans avec un ami producteur et réalisateur qui s'appelle Paul Cornet, avec qui on a fait un certain nombre de films, dont ce film d'ailleurs, hein, j'en ai apporté quelques exemplaires où il m'a suivi pendant plusieurs années dans mes voyages astrophotographiques. Et avec Paul, depuis 4 ans, on réalise une série documentaire pour la télévision qui pour l'instant ne passe que sur des chaînes locales, mais qu'on espère passer sur des chaînes nationales et pour lequel on a un projet éditorial qu'on est en train de préparer. Ça s'appelle Jules Verne Saga. Alors, si vous tapez Jules Verne Saga, vous allez arriver sur plusieurs sites, sur YouTube, etc. Vous pouvez voir quelques épisodes. Et l'idée, c'est que nous faisons 64 documentaires de télévision, de 13 minutes chacun. Et chaque documentaire, c'est Tonton Olivier, moi, qui raconte un roman de Jules Verne. Et donc, je raconte tous les romans de Jules Verne. On fait l'œuvre intégrale des romans de Jules Verne, où chaque roman va être raconté comme si j'étais au coin d'un feu de cheminée, sauf que je suis au milieu des gravures, des personnages, des tourées animées, des romans de Jules Verne. Puisque dans l'œuvre de Jules Verne, vous avez plus de 4000 gravures. C'est un foisonnement d'images que l'on a utilisées, travaillées, retravaillées, etc. Et donc, on a un projet, on est en train de terminer. On est au 52e épisode. Donc, on a encore 3 mois de boulot. Là, on est en train de finir. C'est un boulot complètement fou parce qu'il faut relire tous les romans de Jules Verne. Il faut écrire le synopsis, il faut tourner, il faut tout animer. Et on est en train de préparer donc un projet éditorial, donc un gros volume livre DVD. Il y a 12 heures de vidéos que l'on va sortir pour la fin de l'année, on l'espère. Voilà. Sinon, les projets à plus ou moins long terme, bah, c'est de développer l'observatoire à la Chapelle aux Lys, c'est toute cette vie astronomique. Là où je travaille actuellement avec les élus, c'est que tous les élus de mon canton, voire même au-delà, ont vraiment pris une conscience sur l'importance du ciel nocturne. Donc on va continuer à y travailler. Il y a de nouveaux lampadaires qui remplacent d'anciens. Ça se fait lentement, il faut être patient. J'ai toujours travaillé en n'étant pas dans la confrontation, mais au contraire de convaincre les gens, les invitant dans mon observatoire, autour d'un bon repas. C'est toujours très important. André Braïc, il le dit toujours, hein, il a convaincu de retirer la 9e planète aux Américains autour d'une bonne bouteille de vin rouge. Hein, voilà. Et puis en les embobinant, enfin, voilà. Donc les bons repas, c'est aussi très très important. Et finalement, bah, petit à petit, de convaincre effectivement les élus. Au jour d'aujourd'hui, je pense que vous en êtes certainement rendu compte, je pense que beaucoup d'élus au jour d'aujourd'hui au niveau politique connaissent la question de la pollution lumineuse, notamment pour l'aspect économique. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de villages, de bourgs, de villes qui, dans cette logique quand même de la COP21 aussi, du développement durable, de l'économie d'énergie, font quand même des efforts. Là où on a un très très gros problème, c'est pour tous ceux, toutes les entreprises, les PME, les entreprises qui veulent avoir une vision depuis la route et qui éclairent d'une manière absolument hallucinante. Et là, il y a une fuite en avant totalement dingue au niveau pollution lumineuse avec des taux de lumière, des intensités absolument aberrantes avec des projecteurs dirigés vers le ciel. C'est particulièrement fort en Vendée qui est très dynamique au niveau économique. Donc ça, c'est l'avantage de la Vendée. L'inconvénient, c'est qu'on a des routes. Vous faites la route La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, c'est une horreur totale. Vous avez des entreprises absolument tous les 50 mètres quasiment et qui sont toutes plus éclairées les unes que les autres. Donc là, petit à petit, très très lentement, je suis en train de prendre contact avec les acteurs économiques déjà de mon canton, et il y en a un certain nombre qui sont en train de prendre conscience de cette importance-là. On va essayer de créer une sorte de label, une sorte de... Voilà, on y réfléchit aussi avec Paul Blu de la NPCEN pour essayer de mettre les industriels de notre côté et montrer au contraire que ça, c'est une image très négative que sont en train de donner d'eux-mêmes en s'éclairant de cette manière-là. En plus, ils sont hors la loi au jour d'aujourd'hui par rapport à la loi. Mais on ne va pas aller dans la confrontation, mais au contraire, de les entraîner par eux-mêmes pour que ça vienne d'eux-mêmes pour aller dans une protection du ciel nocturne qui est une image qui soit valorisante pour leurs entreprises. Et puis sinon, bah c'est bien entendu l'observatoire, Nyota Observatory. Pourquoi Nyota ? Nyota, ça veut dire étoile en Swahili, la langue commune africaine. Et donc, bah c'est le développement de Nyota Observatory. J'y retourne dans cette semaine avec 8 stagiaires. On prend 8 personnes au maximum. On a été complet en une semaine. Si vous êtes intéressé, j'ai quelques petites documentations. J'en ai pas beaucoup, malheureusement. Bêtement, il me restait plus beaucoup. Mais si vous allez sur mon site internet, hein, sourcero.net, vous aurez voilà, toutes les données pour découvrir nos stages dans cet observatoire assez voilà. Étonnant du Kenya.
Et au niveau des infos à faire passer, c'était justement un petit peu l'idée de ce que j'introduisais ce matin, avec cette idée de site en fait, qui relie, de façon à lier aussi, les informations. Et donc sur une page, on a donc des actualités récentes, mais quitte à republier pour que ça repasse au présent. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce matin, parce que voilà, j'avais prévu d'arrêter à 15, enfin à 30 c'est pour avoir la petite marge, ouais. Et c'est très très bien. Ah non, trop tard.
Ça y est, c'est foutu Eric, là, ça y est.
Juste un bonus de question, très rapidement, est-ce que vous allez continuer à poursuivre les éclipses ou vraiment c'est quelque chose qui commence à prendre
un peu... Non, je crois que... Alors... on est en train de rêver avec mon épouse et notre petit bonhomme Éloane de préparer la prochaine qui va avoir lieu à la Réunion. Je ne pense pas que je vais y aller, sauf truc au dernier moment, mais plutôt celle du 21 août 2017 aux USA. Je n'ai vu les USA que depuis les chutes du Niagara et j'ai très envie d'aller aux USA maintenant. Et vous savez que bah, l'éclipse du 21 août 2017, c'est la grande éclipse dont on parle. C'est vraiment la grande éclipse des années à venir qui a cette particularité de traverser tous les USA du nord-ouest au sud-est. Et on a dans l'idée, quand on est en train de construire avec Maggie, toujours cette idée de faire des voyages qui soient des voyages. Hein, notre idée, moi j'ai beaucoup de collègues moi l'éclipse, bien souvent, elle est à la fin du voyage. Elle est comme la cerise sur le gâteau. Beaucoup d'autres collègues, l'éclipse au début du voyage. Et puis ça y est, l'éclipse est faite. Et puis ensuite, on fait autre chose. Moi, je construis mes voyages. Tous mes voyages ont toujours été construits avec une logique qui est liée à à une construction qui a du sens. Alors, soit pour faire un livre, un film, une expo, mais il y a une cohérence. Et là, l'idée, ce serait de traverser tous les USA dans un véhicule aménagé dans lequel on pourrait dormir en famille et d'essayer de ne pas s'éloigner de l'ombre de la Lune. Voilà. Et de faire un reportage sur cette éclipse, comment les gens vont la vivre, comment elle a été vécue, voilà, de commencer le voyage, d'observer l'éclipse et ensuite de le continuer après l'éclipse, mais sur le passage de l'ombre de la Lune. Donc un voyage pourrait s'appeler Moonlight Shadow avec la musique de Mac Oldfield, voilà, dans l'ombre de la Lune. Voilà.
Voilà, merci. Donc voilà, donc là je vous propose de faire une toute petite pause de 5 minutes pour aller aux toilettes, fumer et autres. Et je vous donne rendez-vous donc à moins le quart donc dans la salle Galilée qui est à ce niveau-là de l'espace Moins France, en fait qui se trouve au bout du couloir à gauche. Voilà. Donc voilà, donc petite pause et à tout de suite pour le déjeuner. Merci encore.